Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tu n'as jamais joué au bingo de CJMD? Ah ben ça, c'est très triste. Tu sais, nous, la seule chose qu'on veut, c'est de donner de l'argent dans le fond. Hein? Ça t'intéresse? 969fm.ca, section bingo pour les détails. 3000$ tous les dimanches 15h.
Aujourd'hui au Technopreneur, on parle d'intelligence artificielle. On reçoit deux entrepreneurs en studio et on vous revient sur la sortie du nouveau film de Denis Villeneuve, Dune, partie 2. Bienvenue au Technopreneur.
La technologie,
les jeux vidéo,
les films et séries, l'espace infini,
l'entrepreneuriat.
Tu mixes ça ensemble puis ça donne les Technopreneurs.
Et oui, c'est Jimmy Roy qui vous souhaite la bienvenue au Technopreneur en ce 3 mars 2024. Et nous, on est en direct jusqu'à 15h cet après-midi pour vous divertir, pour vous parler de technologie, de cinéma, de jeux vidéo, bref, et même d'intelligence artificielle parce que je pense que c'est un des sujets principaux qu'on a à l'émission depuis le début de l'année 2024. Je vais vous présenter la belle équipe derrière moi. Donc, on va commencer avec le metteur en ondes, Monsieur Jean-Samuel Corriveau. Salut,
Yeah! PS! Yeah! Les Cowboys!
Comment ça va?
Ça va bien, ça va bien. Beau dimanche de printemps, de début de semaine de relâche. Qu'est-ce que ça va être beau, des enfants, dans la neige, toute trempe. Ça va être magique.
Ouais, c'est ça.
Pas de patinoire, let's go.
Mais on dirait que
quelle neige.
Ouais, c'est ça. On dirait que c'est déjà la fin de l'hiver.
Le zélé est déjà tout résumé l'hiver. Quelle neige.
Ben oui, M. Guillaume Bouchard, alias Nodzélé. Salut Guillaume.
Hello.
Ça va bien?
Oui.
Oui. Pas plus que ça?
Oui.
OK. Peux-tu le dire à ton ton de voix? Et là, toi, aujourd'hui, évidemment, tu vas nous parler de Dune 2.
Oui, Dune Part 2, partie 2,
ouais.
Qui, dans le fond, nous avait été révélé au début du premier, lorsqu'on nous a révélé que ça allait être une partie 1.
C'était pas certain, ouais, c'était pas clair.
Disons, ça n'avait pas été commercialisé de ce côté-là, mais
en
quand
effet.
Même, je vous parle de ça. Et je vous parle de Dune aussi dans son ensemble, puisque c'est évidemment c'est l'œuvre originale de Frank Herbert.
Ah, OK. Donc, tu me fais un topo là-dessus.
Entre autres,
oui. Ben, excellent. Ben, ta chronique à suivre dans pas long. Aujourd'hui, moi, pour de mon côté, Jimbo Tech, ben, on a fait beaucoup de coupures dans le marché du jeu vidéo encore cette semaine. Donc, je vous ai concocté un petit topo là, sur vraiment les mises à pied qu'il y a eu un peu partout. Mais ça a pas été une super semaine pour l'univers du jeu vidéo, à vrai dire, même très négatif. Une semaine très noire dans le marché du jeu aussi. Fait que je vous résume ça un petit peu plus tard dans l'émission. Donc, ma chronique Jimbo Tech va être un petit peu plus tard. Et là, cette semaine, ben, on reçoit deux groupes d'entrepreneurs. Donc, on reçoit un petit peu plus tard dans l'émission Cassandra Blouin, donc qui va venir nous présenter son agence créative, Flow. Donc, et aussi, on reçoit aussi Des jeunes entrepreneurs qui viennent présenter leur start-up, donc qui est 0 à 0 rencontre. Donc, un petit peu plus tard. Et tout ça, ben nous, on va diffuser
c'est
ça.
OAO? On va le savoir tantôt.
Ouais, OAO rencontre. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, c'est moi qui... Merci de me corriger. Donc,
wow! Ah, oh, c'est peut-être ça. Wow!
Ben, c'est peut-être ça.
C'est ça, je suis brillant.
C'est trois jeunes entrepreneurs qui vont venir nous discuter de tout ça. Et nous, c'est juste qu'on fait partie de l'expérience Face au Dragon. Donc, pour ces jeunes entrepreneurs-là, souvent, c'est leur première fois. Donc, ils viennent dans une station de radio et qui viennent discuter de leur projet. Donc, et nous, on fait tirer une bourse en lien avec ça. Donc, au total, c'est 2000 $ de publicité qu'on se trouve à offrir aux meilleures entrevues qu'on a eues durant l'émission. Et tout ça, nous, on diffuse ça sur les réseaux sociaux. Donc, on diffuse ça sur Facebook et on diffuse ça aussi sur la chaîne YouTube de CJMD. Et c'est rien de moins que la 295e émission des Technopreneurs et qui est tout le temps garnie d'actualités technologiques. Et on se lance dès maintenant. Et si vous avez des questions pour nous tout au long de l'émission, ben gênez-vous pas, hein, vous pouvez nous texter au 418-903-5969, 418-903-5969, ou si vous voulez, ben on a la page Facebook Les Technopreneurs. Et pour commencer en actualité, ben on va parler de monsieur Elon Musk qui poursuit OpenAI et ses cofondateurs. Donc on a appris ça cette semaine, puis je trouvais ça quand même assez éclaté comme nouvelle. On va approfondir un peu cette actualité là. Donc, les cofondateurs donc, de ChatGPT. Donc, je pense qu'on a entendu parler beaucoup de OpenAI à cause de ChatGPT. Donc, M. Sam Altman et M. Greg Brockman. Donc, on reproche M. Musk, qui se trouve à les reprocher d'avoir abandonné la mission originelle de la société d'intelligence artificielle qu'on connaît maintenant. Et pourquoi? Ben parce que c'était censé de rester une organisation à but non lucratif. Et vous allez comprendre qu'avec l'achat de Microsoft et l'appropriation de Microsoft de tout ça, on est loin de l'organisation à but non lucratif. À vrai dire, actuellement, M. Musk, il fait juste dire actuellement que c'est Microsoft qui s'en met plein les poches et qui essaie de vanter ses mérites un peu partout à la bourse, parce que c'est exactement ça qui s'est passé aussi.
Ben oui, mais il y a quand même un investissement qui est en cours là, chez Microsoft qui est quand même assez massif présentement. Là.
Oui, absolument. Là. On investit donc vraiment un autre 13 milliards de dollars américains qui a été promis dans OpenAI au courant des prochaines années. C'est énorme. Et vous allez comprendre que M. Musk, lui est un cofondateur de OpenAI, donc il fait partie de tout ça. Donc c'est en 2015, sous le statut d'organisation à but non lucratif, et on travaillait sur des logiciels d'intelligence artificielle en accès libre, souvent qu'est-ce qu'on appelle open source. Donc pour être accessible, modifiable et redistribuable pour tout le monde. Et pourquoi qu'on avait fait cette firme-là à l'époque? C'était vraiment dans le but de concurrencer tout ce qui était Google, parce qu'on voyait que Google avait le vent dans les voiles et on voyait aussi qu'il était comme un peu vraiment du côté technologique, pratiquement seul sur sa planète.
C'est ça, puis en plus, c'est un peu un paradoxe avec le nom de OpenAI, alors que c'est une technologie profondément fermée, là.
Ben oui, exactement. Exactement, c'est ça, le nom de l'entreprise. Et là, vous allez comprendre que M. Musk, lui, a quitté le navire en 2018 et il a fondé sa propre compagnie d'intelligence artificielle récemment avec un nom, le nom le plus original qui n'existe pas.
X quelque chose?
XAI.
Non, mais... C'est Elon Musk, il a toujours été sur son X, on va se dire.
Ah, il a toujours été sur son X. Merci JS. Donc, et là, il faut comprendre que depuis que c'est Microsoft qui possède tout ça, ben OpenAI n'a pas rendu public, c'est vraiment son plus récent code de ChatGPT 4. Puis là, vous allez comprendre, c'est ça un peu qui se trouve à briser le contrat initial. Et c'est exactement ça qu'ont fait valoir les avocats de M. Musk dans la plainte qui a été vraiment déposée du côté de San Francisco. Donc, et on va voir ça aller. Mais il faut comprendre aussi que tout ça, M. Musk, actuellement, de qu'est-ce que je comprends, on n'est pas tout le temps en accord avec ce que M. Musk va dire, parce qu'il en dit bien des niaiseries sur Internet, on s'entend, là.
Ouais, mais là, il a raison.
Il a quand même assez raison. Puis on s'entend qu'actuellement, Microsoft n'a jamais été aussi fort à la bourse, à la capitalisation boursière. Et actuellement, tous ces bénéfices-là, ben c'est exactement avec sa firme OpenAI et les investissements qu'on fait là-dedans.
Oui, parce que là, il y a déjà plusieurs reproches qui ont été faits à la firme là, chez plusieurs auteurs, parce que, dans le fond, les auteurs comme, entre autres, George R. R. Martin, de la série de romans Game of Thrones, entre autres, les reprochent d'utiliser ces romans pour enseigner l'intelligence artificielle.
Mm-hmm.
Et donc, c'est tout à fait illégal de faire ça, puisqu'on utilise une propriété intellectuelle à des, dans le fond, à des fins commerciales. Parce que c'est vraiment ça, en bout de ligne, c'est pour faire de l'argent avec.
Ben là, actuellement, tu sais, là, toutes les compagnies ils prennent à peu près le même chemin que Microsoft fait. Donc, on essaie de prouver qu'on est des leaders là-dedans. On va essayer de prouver à nos investisseurs comme de quoi qu'on a le vent des voiles, nous aussi. On ne dépendra pas juste d'une technologie basée chez Microsoft, etc., etc. Donc, je trouvais ça quand même très intéressant comme nouvelle et ça nous explique bien des choses actuellement aussi. Quand on parle de licenciement aussi, de plusieurs... plusieurs sphères d'une certaine façon là, puis vous allez comprendre que Apple aussi est un peu dans ce navire-là. On va en parler un petit peu plus tard dans l'émission, mais vous allez comprendre que tu sais, il y a eu tellement des rumeurs sur Apple pour créer un véhicule à Apple. Je sais pas à quel point vous avez entendu parler du Apple Car au courant des dernières années, mais tu sais, je pense que depuis que je fais l'émission Les Technopreneurs, on parle de rumeurs qu'il va avoir un véhicule à Apple à un moment donné.
Il y en a toujours pas.
Et il y en a toujours pas. Et c'est projet annulé à cause de l'intelligence artificielle. Donc, on en jase un petit peu plus tard dans l'émission. Mais tu sais, à quel point que c'est important actuellement là dans la capitalisation boursière des compagnies technologiques, c'est hallucinant. Donc, on s'en parle un petit peu plus tard dans l'émission. Je veux rappeler à nos auditeurs aussi que CJMD, c'est pas juste sur la bande FM, c'est pas juste au 96.9. Mais non, parce qu'on est disponible aussi sur YouTube. On a une belle chaîne de disponible. Et justement, vous pouvez avoir des segments, des entrevues de nos jeunes entrepreneurs aussi qu'on reçoit à l'émission. C'est tout disponible sur la chaîne YouTube de CJMD. Allez vous abonner. Donc, on est sur le point d'aller vraiment d'attraper le 1000 abonnés. Donc, ça serait vraiment très intéressant. Donc, merci beaucoup de nous encourager de ce côté-là. Et là-dessus, ben, on va parler de science-fiction avec Le Zélé.
Guillaume Bouchard, dans le rôle du Zélé de la télé. Hey,
salut les gars,
Part 2, en tout cas.
Mais le premier n'était pas une première partie. En tout cas, bref.
C'est ça, c'est un peu particulier. Parce que moi, je me rappelle, quand je suis allé voir Dune, parce que là, il faut prendre... Tu sais, si on revient à l'origine de qu'est-ce que c'est Dune.
Ouais.
Dune, c'est un roman, dans le fond, en fait, une série de romans qui a, dans le fond, dont le premier a été écrit en 1965 par Frank Herbert.
Ah, OK, quand même. C'est quand même assez vieux. Là.
Absolument. D'ailleurs, c'est ce qui a inspiré beaucoup... les Star Wars qui ont suivi, là, tu sais, Dune n'existe, tu sais, s'il n'y avait pas eu Dune, il n'y aurait pas eu de Star Wars.
Oh, quand même!
Parce que ça a été un préambule, dans le fond, ça a été le lien entre l'œuvre d'Isaac Asimov et dans le fond, qui est le parrain, moi je l'appelle toujours le parrain de la science-fiction moderne, et justement, tout ce qui a suivi l'aspect visuel des films, donc, ce qui est intéressant de ce que Frank Herbert avait fait avec son roman, c'est qu'il a créé un monde très, très vaste avec beaucoup d'histoires. Et, tu sais, c'est ce qui a fait qu'il y a eu autant d'intérêt. Parce que si je vous dis, tous les romans, là, parce que si je me trompe pas, j'essaie de me rappeler le nombre de romans qu'il y a au total. Je pense qu'il y en a près d'une vingtaine. Mais sur les 20 romans environ, à la base, il y en a 6 là, dans la saga principale, mais je pense qu'il y en a d'autres là aussi. Mais je pense que, si je ne me trompe pas, c'est 6 dans la saga principale plus d'autres.
Okay.
Il y a 20 millions d'exemplaires qui ont été vendus.
Aïe, quand même, ça a vendu, ça.
Exactement. Donc, et ça continue. Donc, le chiffre continue de monter.
Ah oh, ouais.
C'est pas terminé. Ce qui veut dire que, tu sais, c'est le film a donné, parce que on parle d'une deuxième adaptation ici de l'œuvre de Frank Herbert. L'original date de 1984 de David Lynch. David Lynch, si vous le connaissez pas, c'est puis d'ailleurs là devait revenir dans certains endroits aux États-Unis parce que c'est 40 ans là qui dans le fond que le film est sorti.
Ah, OK, de vraiment ressortir le vieux film au cinéma.
Le vieux film au cinéma en effet aux États-Unis est sorti dans il appelle ça les Fathom Events aux États-Unis. Donc c'est Fandango, le site Fandango là qui vend des billets entre autres là qui fait la promotion de ce genre d'événement.
OK.
Alors, faut dire que David Lynch, la version qu'il a faite en 1984, ben c'est grosso modo tout le premier livre au complet, voire même presque une partie du Messie de Dune, qui est le livre suivant. dans le fond. Parce que Frank Herbert a écrit son roman, c'est un peu comme dans le contexte de George R. R. Tolkien. Tolkien, quand il écrit son roman, c'était un seul roman qui ont fini par séparer en trois parce que l'éditeur disait « ça n'a pas de bon sens, personne ne va lire un roman de 1700 pages ». Il avait pas complètement tort.
C'est vrai.
Dans le cas de Dune, c'est un peu la même chose. Il l'a un peu volontairement, si on peut dire, séparé. Et c'est là-dessus que Denis Villeneuve s'est inspiré pour séparer le film en deux. Parce que dans une entrevue que j'écoutais hier soir, d'ailleurs, là, il mentionnait que il a dit tout de suite, quand il est arrivé à Hollywood, là, un peu après, écoute, il enchaînait là, les films. Là. Il enchaînait Arrival, il était en train de faire Blade Runner 2049. Oui, et on lui demandait, dans le fond, c'était quoi son projet qu'il voulait faire absolument. Il a toujours dit Dune, dans le fond, parce que c'est un des premiers romans qu'il a lu quand il avait environ 13-14 ans. Donc, ça l'a toujours fasciné, parce que justement, tu sais, c'était un univers très vaste. Puis, évidemment, ben au Québec, hein, c'est très froid. Puis là, c'était un univers très aride. Donc, c'est un peu ça, je pense, qui l'a attiré. Il a pas mentionné ça spécifiquement, mais moi, de mon côté, c'est ça qui m'avait attiré vers le roman, parce que j'ai lu une fois le roman original. J'ai pas lu les suivants, là, les subséquents, mais j'ai lu le roman de Frank Herbert originellement. Et c'est très bien écrit en passant. Non? Donc, c'est très solide. Ça donne beaucoup d'espace à justement ce qu'on voit à l'écran. Parce que vous allez voir beaucoup de similitudes autant dans les uniformes, ce qu'on appelle les frame kits, là, donc c'est ce qu'ils portent pour pouvoir survivre dans le désert, que dans certains cas, les véhicules qui sont utilisés, ils se ressemblent quand même assez pas si mal aux véhicules originaux qu'on voyait dans le film de David Lynch, parce qu'évidemment, ils sont très bien décrits dans les romans de Frank Herbert. Donc, à l'origine, paru en octobre 2021, la première partie de Dune, qui est le projet de Denis Villeneuve, c'est vraiment son projet de carrière, là. Lui, dans le fond, s'il avait quelque chose à faire, c'était ça. Fait que là, une fois qu'il va l'avoir fait, je pense qu'après ça, je me demande, tu sais, c'est quoi?
Ben, à vrai dire aussi, je pense qu'il avait réalisé un rêve aussi qu'il avait fait la grosse production Warner Brothers Sony avec Blade Runner. Donc, vraiment le retour de Blade Runner 2000...
C'est Blade Runner 2049, mais il l'a dit. Ça c'est son rêve, c'était Dune. Blade Runner, c'était son tremplin, en fait, vers Dune, parce qu'il s'en allait vers là.
Mais il a prouvé qu'il était capable de faire des films de science-fiction.
Absolument, là. Tu sais, on l'avait déjà vu, là, tu sais, dans Arrival, avec un budget, dans le fond, beaucoup plus restreint. Même, tu sais, si on remonte, écoutez, c'est quand même celui qui a réalisé Polytechnique, là.
Ben, c'est ça.
Tu sais,
c'est un film en noir et blanc.
C'est un film, là, vraiment intéressant.
Caméra à la main.
Déjà là, je vois quelque chose de bien intéressant dans le film que vous allez voir dans le deuxième. Il y a des séquences qui sont tournées, dans le fond, lorsqu'on va sur la planète des Harkonnen, qui sont tournées avec une lentille spéciale. Je vous laisse le découvrir visuellement. Ça n'avait jamais été utilisé avant, puis ça a donné un effet très particulier. Faut dire aussi que Denis Villeneuve, ben, c'est un Québécois, mais il vient pas tout seul. Hein. Il vient aussi avec le directeur artistique Patrice Vermette, qui fait tous ses films. Depuis, là, je pense depuis le tout premier, c'est lui qui fait la direction artistique de tout. Donc, c'est vraiment intéressant. Même sa productrice également le suit depuis un certain temps. Donc, c'est vraiment, tu sais, c'est ce qui fait un peu comme Christopher Nolan, qui a placé Denis Villeneuve, je pense, sur une espèce de plateau au-dessus des autres. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est capable de présenter des films grandioses. Bien que moi, j'ai le bémol, tu sais, là, écoutez, je vais vous laisser découvrir le film comme vous voulez. J'ai vraiment aimé le premier et j'ai vraiment aimé le deuxième. Est-ce que vous allez me dire, est-ce que c'est un grand film? Si ça avait été tout d'un bout, oui. C'est ce que c'est ma critique, là, la plus grosse critique que j'ai. Puis tu sais, je peux pas, elle a pas beaucoup de poids dans le contexte parce que il a bien utilisé. Tu sais, le premier film, la première partie dure 2h35.
Ben c'est ça, celui-là aussi est long, là.
Puis la deuxième dure 2h46.
Aïe, aïe.
Fait que tu sais, c'est quand même, si on parle d'au-dessus de 5 heures de film, là, mais tu sais, ça reste que c'est pas long.
Non? OK. Donc, non. C'est un bon divertissement.
C'est ça. Le deuxième, là, est beaucoup plus un film d'action. T'sais, le premier est un film préambule, mais je tiens quand même à mentionner à quel point, moi, j'avais été déçu à la fin du premier lorsque j'avais comme, OK, on m'amène pas un film au complet, on m'amène juste une moitié de film. Donc, c'est l'aspect que là, je dois donner le point à l'œuvre de David Lynch en 1984, c'est que lui, ben, il raconte toute l'histoire. Puis là, bien évidemment, ben il va avoir un parti 3 parce que, dans le fond, évidemment, ça va dépendre de Warner Brothers là, là-dessus beaucoup. Là, mais je pense que ça va bien fonctionner là, parce que là, on prévoit là, qu'il va faire un 80, peut-être un 100 millions.
Ah oui, je suis persuadé.
Dans le fond, mais là, regarde, là, juste vendredi, là, dans les délais, si on sort sur Box Office Mojo, on est à 32 millions, ce qui le place déjà en deux jours là, à un petit peu plus, près de 50, 60 millions, là, presque en deux jours. Donc, ce qui veut dire qu'il va aller, avec dimanche, il va aller chercher 80 millions, peut-être 90 millions à la première fin de semaine, ce qui est excellent pour un film de presque 250 millions de budget. Là.
Quand même, 250 mais, millions de dollars de budget.
Pas le choix, il tournait dans le désert. Parce c'est que là, ça. Lui, c'était la première chose. Il dit, moi, je signe rien si on ne tourne pas dans le désert.
Mais c'est ça qu'on voit aussi dans la bande-annonce. C'est des images époustouflantes, des effets spéciaux grandioses. Vraiment, tout a de l'air à tenir la route. La musique, le jeu des acteurs... Tout tient la route.
Absolument. Le jeu des acteurs est très solide. Encore là, puis là, on voit, c'est là pour moi, c'est là qu'on voit la voyons, le talent de Denis Villeneuve. C'est que c'est un directeur d'acteurs assez impressionnant. Et d'ailleurs, si on prend le personnage de Austin Butler qui joue Feta Harkonnen, qui est probablement le vilain le plus intéressant depuis le Joker de Heath Ledger dans The Dark Knight. Vraiment, il est très crédible. Il est pas, tu sais, il est pas très gras. Et tu sais, je m'attendais un peu ça parce que, tu sais, on a vu beaucoup Austin Butler dernièrement, fait que j'avais comme l'impression que le Elvis allait ressortir dans tout ça, puis pas du tout, là, il est très différent. Tout est intéressant dans ce film-là, et je vous laisse découvrir, dans le fond, quel rôle il va jouer, mais il y a Christopher Walken qui joue un rôle, donc, évidemment, dans le film. Donc, je vous laisse découvrir quel rôle il joue, c'est vraiment intéressant.
Là, il est pas là avec sa BMW, là, comme au Super Bowl, là. Parce qu'il a fait une pub de BMW au Super Bowl.
Brûle pas de punch, là.
C'est vieux,
là. Brûle pas de punch.
Non, c'était au Super Bowl cette année, là.
Ah oui?
Oh, oui.
Bon, clairement, je l'ai pas écouté.
Ouais.
Mais tout ça pour dire que, allez voir ce film-là au IMAX, si vous pouvez. J'ai pas eu l'occasion d'aller le voir la première fois, mais je vais aller le voir une deuxième fois. Et je vais aller le voir en IMAX parce que il a tourné certaines séquences en IMAX, ce qui fait qu'on tombe là avec les beaux cadres comme on a un peu avec les films de Christopher Nolan, un peu plus carré que rectangle, ce qui donne un petit peu plus de côté intéressant lorsqu'on fait un gros plan, parce qu'on est capable de rentrer un petit peu plus loin dans le visage du personnage et l'avoir au complet dans un full screen. Donc, je vous dirais, allez le voir au IMAX. C'était pas mal tout plein en fin de semaine. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça. Mercredi, j'ai commencé à regarder les représentations et là, je voyais jeudi, toutes les représentations pleines. Anglais-français. Vendredi, toutes les représentations pleines. Anglais-français. Ouais, samedi, toutes les représentations pleines. Anglais-français.
Ben, qu'est-ce que tu dis actuellement? C'est exactement ça que j'ai dans mon entourage. J'ai jamais vu autant un enthousiasme pour aller voir un film au cinéma depuis vraiment longtemps. Là.
Ben c'est un Québécois. C'est
ben, sûr je que sais, mais c'est... ici, en tout cas, c'est fou, là, ici, à quel point qu'il y a du monde vraiment sont prêts à aller au cinéma voir ce film.
Les fichus de Villeneuve, hein, ils nous font tout le temps ils nous font tout le temps vivre des émotions. T'sais. On avait Jacques avant, puis Gilles l'autre d'avant, puis là, c'est Denis.
Faut pas t'oublier Annie dans l'histoire, là.
Alors, je disais... mais non, sincèrement... tu sais, moi, si je compare Oppenheimer, pour moi, il n'est pas sur le même plateau. Vous me dites, là, vous me comparez.
C'est comme tu dis. C'est juste que pour toi, c'est pas un film qui est quand même complet.
C'est un très bon film. Ben non, parce que là, j'ai juste la deuxième moitié. Là. Si je veux l'écouter au complet, il va falloir j'attendre que les deux soient disponibles.
C'est ça. Mais exemple,
si j'aurais aimé ça avoir la possibilité d'écouter le premier puis le deuxième. Tu sais, comme on faisait, comme moi, je l'ai fait là, avec Lord of the Rings à l'époque. Là, c'est 11 heures au cinéma. Puis après ça, je l'avais fait avec le Hobbit aussi. Là, c'est un autre 10 heures au cinéma. Je le ferais. Puis il y a plein de monde qui l'aurait fait.
Ben, c'était un peu ça ma question que je vais te poser. Parce que tu sais, c'est pas la première fois qu'on voit ce genre de concept là, de marketing au cinéma. Mais lui, ça a l'air vraiment de déranger beaucoup plus que qu'est-ce qu'on a vu avec Harry Potter ou qu'est-ce qu'on a vu avec...
Harry Potter, c'était très clair que c'était parti.
C'était mentionné.
Exactement. Il y avait à nulle part qu'on mentionnait, qu'on l'a vraiment juste mentionné dans le générique du début. Je l'avais pas vu sur aucun poster qui était marqué Part 1. Et si vous allez sur IMDb, sur la fiche du film, il est juste écrit Dune.
C'est ça.
Et si vous allez sur la fiche du film de celui-là qui vient de sortir, c'est Dune 2. Part 2.
Exactement. Puis il y a beaucoup de monde qui disent Dune 2 aussi.
Ben oui, exactement.
même les gens qui
vraiment, comme ça.
Même des acteurs là, vraiment qui ont posté des trucs sur les réseaux sociaux.
Ben parce qu'il y avait même une série télé là, qui avait été faite là, à l'époque aussi. Puis moi, ça je vais terminer avec ça. C'est qu'il y a un jeu, un vieux jeu de PC qui s'appelle Dune 2000. Et je joue encore, moi, à ça.
Dune 2000? Moi, ouais. Je connais Dune 2 de Westwood.
Oui, mais en fait, c'est que ça s'appelle... Ça, c'est Dune 2. Et c'est la version, si on pourrait dire, la version qui était sortie sur les consoles, sur les autres types d'appareils. Mais Dune 2000...
Oui, en 98.
Exactement. C'est la version PC originale. Dune 2, c'est le rebranding qui avait été fait par la suite. Mais Dune 2000, c'est vraiment un excellent jeu de... tu sais, à la StarCraft, là, dans le fond, où est-ce que
c'est Westwood, donc c'est Command and Conquer.
Exactement.
Alerte rouge. C'est ça.
On est sur Arrakis, donc là, on peut prendre soit les Harkonnen, on peut prendre les Atreides, ou on peut prendre même une autre des factions qu'on ne connaît pas vraiment dans le premier. Je dirais que, donc, il y a un fanbase très, très vieux de Dune, et c'est pour ça qu'il fonctionne bien. C'est pour ça que ça a bien fonctionné, parce que les gens, écoute, je faisais des recherches sur Dune, il y a un Wikipédia spécifique et maintenu par des fans de Dune. Donc c'est pas sur Wikipédia. Il est vraiment, c'est un Dune Wiki, c'est un site spécifique, un .org, et c'est eux autres qui le gèrent.
Fait qu'il y a des gros fans comme à la Star Wars qui trippent autant sur Dune, parce que comme tu le dis, c'est le papa de Star Wars un peu, là, tu sais.
Oui, parce que ça a été le préambule, parce que tu sais, on parle de, c'est sorti dans les années 60, et qu'est-ce qui est sorti une dizaine d'années plus tard? Ben, c'est Star Wars. Donc, George Lucas, là, lui, là, quand il était adolescent, là, c'est ça qu'il a vu, là. C'est ça qu'il lisait, c'est les romans qu'il lisait, il y a à peu près le même, je pense qu'il est un petit peu plus il est un petit peu plus vieux que Denis Villeneuve, mais ça reste quand même que, tu sais, c'est le même genre de choses auxquelles ils ont été élevés comme nous autres. C'est les Star Wars, mais tu sais, c'est notre génération, nous autres. Il va y avoir une autre génération qui va avoir un autre type de film par après. Peut-être d'autres Star Wars, là, mais bon, ça restera à voir. Allez voir au cinéma. Moi, de mon côté...
IMAX, surtout.
Oui, IMAX, très important. Je vous parle tout de suite de la semaine prochaine, parce que j'ai eu droit à un abonnement gratuit à Apple One, ce qui me donne accès à tout le stock d'Apple au complet. Et j'ai écouté Napoléon, donc la version de Ridley Scott qui m'avait dit Joaquin Phoenix.
Ben, je trouvais que ça va de là bien, moi.
J'ai bien hâte de voir. Je vais vous en parler la semaine prochaine.
Ben, à vrai dire, la semaine prochaine, nous, on est absents.
C'est donc, vrai, la semaine d'après, c'est
donc,
ça que je veux dire.
Exactement. Donc, on va être de retour le 17 mars, mais la semaine prochaine. Donc, une petite pause pour les technopreneurs. Donc, une petite pause bien méritée. Merci beaucoup, Zélé.
Ça fait plaisir.
Merci beaucoup. Et puis, écoute, tu m'as juste donné encore plus le goût d'aller voir Dune, partie 2. IMAX, oui, surtout. Oui. Surtout. Et puis, de toute façon, c'est ça qui est bien d'IMAX. On peut déjà acheter nos biens. On peut acheter nos biens en ligne, en avance.
En passant, la traduction française, elle est très solide. Donc, vous pouvez, n'hésitez pas à aller le voir en français si vous ne voulez pas aller voir en anglais.
OK. Bon, mais excellent. Mais merci beaucoup, Zélé. Et là-dessus, nous, on va aller à la pause publicitaire. Après la pause, on tombe en mode entrepreneurial avec l'expérience Face au Dragon. Restez là, parce que vous écoutez les technopreneurs.
Écoute ça. Vous écoutez CJMD.
You're now listening.
La radio de Lévis. Talk rock hip hop.
Mon
Oui, vous êtes de retour au Technopreneur en ce 3 mars 2024. Il est 13h36 et nous, on est en direct et ça jusqu'à 15h cet après-midi pour vous divertir, vous parler de technologie et aussi vous faire découvrir des entrepreneurs de la région. Et oui, parce que les technos, ben, cette année, on est associé à l'expérience Face au Dragon et puis on met de l'avant des jeunes entrepreneurs avec des projets, toutes sortes de projets. Et puis, on va vous présenter finalement l'application InPerfect dans pas long, mais juste avant, on s'en va en actualité technologique. Juste en début d'émission, on parlait de OpenAI et de M. Musk qui poursuit donc les cofondateurs vraiment de OpenAI. Mais il faut comprendre qu'il y a comme une nouvelle qui est associée à tout ça et cette fois-ci, c'est du côté de Apple. Parce qu'on a parlé beaucoup vraiment au courant des dernières années que Apple était sur le point de se lancer dans le monde des véhicules électriques ou des véhicules intelligents. Bref, c'était pas très clair parce que ça a été une rumeur. Écoute, on a-tu discuté de ça au
Mais
techno?
C'était la mode.
Ben, écoute, c'était vraiment... Ben, il fallait s'en aller dans le milieu automobile.
C'était la mode.
Exactement.
Même Sony est allé là-dedans un peu aussi. Là.
Ben, à vrai dire, c'est le seul actuellement, finalement, qui est arrivé avec un projet avec Honda. Dans le fond, eux sont associés avec Honda pour amener un nouveau type de véhicule électrique pour faire compétition un peu à Tesla dans cette aventure-là. Mais là, il faut comprendre que cette semaine, il y a eu quand même une nouvelle qui nous confirmait que Apple mettait vraiment de côté au complet tout ce qu'il y avait eu en création et en développement pour leur véhicule, donc le Apple Car, et qui était surnommé le Projet Titan à l'interne.
Je pense principalement que c'est tout l'enjeu au niveau de tout ce qui était les pièces, tout ce qui a été de faire le projet qui a été trop long, puis c'est passé de mode les véhicules électriques maintenant, c'est l'intelligence artificielle, donc les investisseurs, c'est là qu'ils veulent aller. Alors Apple a simplement suivi.
Ben, à vrai dire, écoute...
Au lieu d'être un leader, comme ils ont toujours été... Maintenant, ils suivent.
Est-ce que c'est ça?
Ah, je suis pas mal certain.
Est-ce que c'est ça? Ben, à vrai dire, il faut comprendre que c'est depuis 2014 qu'ils travaillaient vraiment sur un projet comme ça. Mais là, vous allez comprendre, c'est rien d'officiel. Parce qu'officiel, tu sais, on s'entend qu'Apple s'en va pas dire « Ah oui, on a mis 8 ans d'argent dans ce projet-là pour le mettre dans les poubelles. » On s'entend qu'ils n'iront jamais confirmer tout ça. Mais il y a beaucoup de preuves à l'appui. Donc, de Bloomberg, de Reuters, donc, qui ont sorti. Et on pensait commercialiser ce nouveau véhicule-là d'ici 2024-2025. Là, j'ai dit en début d'émission qu'on était le 3 mars 2024. Donc, vous allez comprendre qu'on met un peu de côté tout ça parce que Apple, à part vraiment lancer leur Apple Vision Pro récemment, on est vraiment tombé dans un casque de... Ben, écoute, eux, ils disent pas que c'est un casque de réalité virtuelle, ni un casque de réalité augmentée. Ils se trouvent à dire que c'est un ordinateur spatial.
Ouais, ben, il y a pas mal de monde qui le comprennent pas parce qu'il y a un pourcentage de retour qui est quand même élevé.
C'est sûr qu'à 3 500 $ US, ton casque de réalité, il faut qu'il soit quand même pertinent puis intéressant. Mais... Qu'est-ce qui se passe avec finalement ce marché automobile-là? Mais il y a quand même une baisse dans le marché des voitures électriques. Il y a moins d'engouement aussi parce qu'on s'entend que c'est pas la planète au complet qui va pouvoir profiter de tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup aussi de technologies propriétaires qui viennent de la Chine et on s'entend que les compagnies américaines ou les compagnies un peu partout dans le monde ont de la difficulté à s'associer avec des compagnies chinoises pour avoir une livraison de batteries ou de pièces comme ils voudraient. Et du côté de Apple, on s'avait associé avec Hyundai. Donc, pour arriver à concevoir un véhicule électrique, c'était les rumeurs, c'était ça qu'on entendait parler. Mais là, du côté de Hyundai, on s'entend que Hyundai et Kia actuellement, je pense que c'est le concessionnaire ou la marque automobile qui fait peut-être les meilleurs véhicules électriques actuellement, voire avec Tesla. Là. Donc, je pense que c'est pas mal les deux compagnies qui sont capables de bien livrer la marchandise avec tout ça. Mais aucune nouvelle du côté de Hyundai. Rien du tout. Et apparemment qu'il y avait au-dessus de 1000 personnes qui travaillaient chez Apple pour le développement d'un véhicule électrique. Apple, c'est la seule compagnie qui n'a pas fait de coupure du côté de leur personnel, de leur employé.
Rediriger l'équipe vers leur équipe vers le nouveau projet.
L'intelligence artificielle! Mmh. Voilà, donc tu avais déjà pas mal tout deviné exactement l'actualité. Vraiment, c'est vraiment quand on dit que vraiment tout ça est en lien avec la capitalisation boursière, donc vraiment malgré que Apple, ça fait quand même pratiquement une dizaine d'années qu'ils investissent énormément d'argent pour avec un projet comme ça, puis juste à cause que là ils ont pas pris vraiment on s'entend, ils sont pas si en avance que ça. C'est pas ça qui vante le plus à Apple actuellement, l'intelligence artificielle.
Mais c'est parce qu'ils prennent toujours le temps de faire les choses. Puis là, dans ce cas-ci, ils se sont tirés dans le pied parce qu'ils ont tellement pris le temps que c'est passé de mode.
Ça, c'est
ils sont obligés de diriger leurs efforts ailleurs.
Exact. Exact. Donc, au moins, ils n'ont pas fait de coupure. Donc, parce que c'est pratiquement la seule compagnie qui n'a pas fait de coupure de la secteur technologique. Mais on retire ce gros projet-là. Donc, finalement, le Apple Car, ou vraiment cette fameuse voiture-là, ben, n'existera pas. En tout cas, bref, pas dans les prochaines années, voire.
Certainement pas dans son itération actuelle, là. Ça va tout devoir rechanger parce que la technologie va avoir changé.
Oui, exactement. Puis aussi avec peut-être le succès, mi-succès aussi du Apple Vision Pro, j'ai hâte de voir parce qu'on a mis beaucoup d'argent aussi dans ce domaine-là. Puis c'est à savoir si on va vouloir continuer aussi ces investissements-là.
Mais c'est ça, parce que la majorité des retours, là, dans l'article que je disais sur IGN, il disait que c'est parce que les gens ne comprenaient pas l'utilité.
Oui, c'est ça, oui. Mais en même temps, il n'y en a pas tant. C'est un peu ça. Je pense que c'est un peu pour ça qu'on ne comprend pas beaucoup l'utilité.
Un coup que tu as vu 3-4 films en 3D, tu sais, c'est pas mal ça, là.
Oui, c'est ça. Puis en plus, ils viennent même pas des plateformes. Là. C'est des films que tu achètes sur l'Apple Store.
En plus.
C'est ça, ouais. Fait, les gens sont peut-être moins habitués de faire ça maintenant. Hein.
C'est un produit de riche que les gens, genre, avec un peu de fortune, s'achètent puis qu'ils se rendent compte que ça sert à rien. C'est de la grosse luxure pure, là, on s'entend. Tu achètes un produit test, là. Tu sais, c'est. T'embarques dans un nouvel environnement, donc tu as besoin d'avoir le capital. Pis, c'est pas pour rien, je pense aussi qu'ils ont dit bah, si vous voulez nous le retourner en dedans de tant de jours, on vous laisse l'essayer. Là, au pire, ça fera de la pub. Là,
ben, ils ont tout le temps permis ça, mais là, pour un produit de 3 500 $, peut-être qu'ils ne s'attendaient pas à avoir autant de retours.
Ouais, puis surtout qu'il y a des modèles avec avec le défaut qui fendent là, en plein centre en avant.
Ben, on va en discuter lors d'une prochaine émission. Il y a un taux de fiabilité qui est un peu ordinaire pour le produit.
Il y a beaucoup de choses qui sortent dans les dernières semaines.
Voilà. Et donc, qu'est-ce qui fait le tour de l'actualité. Donc, du Apple Car. N'aura pas d'Apple Car. C'est tout. Okay. Et là, là-dessus, ben là, nous, on change de sujet. Donc, on tombe en mode entrepreneurial avec l'expérience face au dragon. Et je vais vous présenter trois entrepreneurs qui sont avec nous en studio. Merci de vous avoir déplacés, messieurs. D'ailleurs, je vous les présente. C'est Olivier Boucher, Olivier Drolet-Saint-Cyr et Alexandre Couture.
Bienvenue.
Bonjour.
Oui, bonjour. Vous allez bien?
Hello.
Très bien, vous?
Oui, ça va très bien, merci. Et puis là, j'aimerais ça qu'on prenne le temps de présenter votre projet, donc une application de rencontre qui s'appelle Imperfect.
Exactement. Donc, l'idée, nous autres, on a commencé, on est trois jeunes qui ont toujours été sur les applications de rencontre.
Oui.
Puis on regardait un peu le marché, qu'est-ce qui se produisait présentement. Puis, on a décidé, un bon jour, de se partir une entreprise. Initialement, ça partait d'Olivier. C'est lui le CEO, c'est lui le président.
OK.
C'est de sa propre volonté que tout est parti. Et il a ensuite accosté Alexandre, qui est le meilleur programmeur à travers nous trois. Puis, ils m'ont apporté en troisième, justement, pour aider un petit peu plus, pour former le tout. On est trois gars de 42. Puis, notre projet, comme je vous disais, c'est au lieu de présenter les gens sur leur meilleur jour, comme vous voyez sur Inge, sur Tinder, sur Bumble, nous autres, on a décidé, on va changer complètement le marché. On va décider de présenter les gens sur leurs imperfections. On dit jamais défaut, on dit toujours imperfection. Et donc, l'idée, c'est que les gens vont avoir, tu sais, de façon un peu humoristique, de façon un petit peu plus tongue-in-cheek, là, en bon québécois, les gens vont se présenter peut-être des petites pinces, ils vont permettre de démontrer leur personnalité. Ils vont vraiment, ils vont essayer de se présenter sur un jour plus honnête que nécessairement certaines autres applications ne l'auront pas. Et donc, ça, c'est l'idée principale.
Oui, parce que la majorité du temps, les applications de rencontre, s'il y a à peu près 20% de vérité dans tout ça,
c'est déjà bon. Là.
C'est pas pire, ouais, c'est ça.
C'est-tu moins où les femmes là-dessus sont toutes en train de faire soit du kayak ou du c'est quoi là?
Du hiking.
Du hiking.
Du hiking,
paddleboard. On a regardé des stats un petit peu là, sur Pew Research. Ils disaient que t'as 98% des gens qui se disent honnêtes. Mais tu as 71% des gens qui disent que les autres ne sont pas honnêtes. Ça fait qu'il y a comme une petite différence ici.
Un beau paradoxe là.
Ouais. Ouais, hein? Aïe aïe. Là-dessus, nous autres, on est décidé. Mais regarde, il y a de l'argent à faire, il y a un projet à faire. On va rendre les gens plus honnêtes. Puis c'est de là qu'on est parti avec Imperfect.
Excellent. Et là, votre application, est-ce qu'elle est disponible? Ou
Elle n'est pas encore disponible. Là, on est en train de travailler sur le produit bêta. Le gros effet du développement. On prévoit de lancer l'app dans la bêta, on la prévoit de la lancer dans 6 mois, c'est le timeline qu'on s'est donné pour la rendre disponible aux gens pour la tester là, et tout.
Et là, toi, Alexandre, c'est toi qui programmes ça. Donc, vraiment, on fait de la programmation d'application, donc autant pour le côté Android que iOS.
Ouais, là, on se focus. Là, on est sur React Native, dans le fond, pour la technologie. C'est ce qui nous permet de build autant sur le iOS que sur l'Android en même temps, ce qui est vraiment pratique. Pas besoin de coder native sur
ouais,
les deux.
Ouais, sauver du temps okay. là-dessus.
Exact, c'est ça. Mais la bêta, on prévoit de la lancer seulement Android et ensuite de se concentrer plus sur la version iOS parce que veut pas, même si on développe sur les deux en même temps, il y a tout le temps des petits fignolages qui sont propres à chaque système d'opération.
Je pense qu'Apple est un petit peu plus difficile aussi sur certaines structures. Là.
Sur le release surtout. Ouais. Release, il est beaucoup plus strict. Là. Tu peux pas release genre 6 fois pour ta version. Là.
Faut que ça soit prêt, là. Faut que ça soit bien ficelé, faut que ça soit fonctionnel, pour pas que ça soit bugueux.
C'est ça, exact.
Excellent. Et puis, j'aimerais ça, là, savoir, parce que là, vous, là, on se lance vraiment dans un gros projet, parce qu'il y a de la compétition là-dedans, là. Il y en a du stock, il y en a de l'offre. Mm-hmm. Et puis, mais parlez-nous un peu de votre parcours, là. Comment on devient entrepreneur comme ça, là?
Ben, Oli, veux-tu embarquer? Veux-tu commencer?
Vas-y.
Ben, il faut avoir une idée.
Oui, absolument.
Il faut trouver les personnes pour mettre en œuvre cette idée. Fait que c'est pour ça que j'ai approché Alexandre, parce qu'Alexandre, tous les deux, on étudie à une école qui s'appelle 42 Québec, une école de programmation. On s'est rencontrés là-bas, j'ai lancé l'idée, ça l'intéressait, il a commencé à travailler. Premièrement, normalement, quand on lance une entreprise, c'est pas de directement commencer par le produit. Nous, on a commencé par le produit. On est allé directement à 100% sa programmation, à nos heures perdues, dans le fond.
C'est ce qu'on aime faire, ça.
Exactement. Fait que c'est une passion. Fait que on a poussé là-dessus, sur le développement.
Ben, on peut dire même, on a dû changer de concept initial.
On avait un concept initial, je vais le dire, c'était les Love Language. Je sais pas si vous connaissez un peu les Love Language. C'est les 5 langages de l'amour. C'est un concept inventé par un pasteur aux États-Unis.
85 ans, qui est parti ça dans les années 90. Un gars qui est même pasteur. Pas un psychologue.
Tu vois, t'en partais
avec qui testait ça, lui?
C'est une autre histoire, ça.
Faisait du marriage counseling.
On a des images.
Malheureusement, ben, le concept, il est trademark. Fait qu'on n'a pas pu continuer avec ce concept-là. On était parti là-dessus à 100%. Finalement, on a dû virer de bord. Puis c'est là qu'on est allé vers Imperfect.
OK.
C'est comme ça qu'on a changé.
Ouais, tu sais, puis on a tout le temps été des personnes qui... Oli, au début, il m'a approché, c'est ça, puis il voulait qu'on fasse l'application ensemble. Moi, ça me faisait plaisir. J'aime ça être dans l'action. Puis j'ai tout le temps voulu et tout partir de mes propres ailes, faire ma propre compagnie. Fait que là, ça m'a donné l'opportunité avec son idée. Puis Oli aussi, on savait que lui, Oli, deux à ma droite. Même pour les gens à la maison qui ne comprennent pas à ma droite. Dans le fond, on voulait l'embarquer aussi parce que lui aussi, il a tout le temps voulu être entrepreneur. Il a tout le temps voulu. Sauf que lui, il manquait l'idée puis le produit. Fait qu'on y a donné.
Exactement.
C'est excellent, ça. Ben, c'est super intéressant. Qu'est-ce que vous sortez là? Et là, actuellement, c'est quoi vraiment le côté le plus compliqué? Là? Parce que là, vous êtes actuellement en pleine conception.
Oui.
Et c'est quoi qui est le plus compliqué en ce moment?
Ben, logiquement, toujours ce qui est le plus compliqué, c'est aller chercher de l'argent pour de l'investissement. Ça fait que c'est une des raisons pour qu'on est en face vers les dragons, dans l'œil du dragon, on devrait dire. Mais oui, c'est sûr que l'application en tant que telle, c'est une question de design. Puis surtout, dans ce marché-là, le marketing va être particulièrement difficile. Okay? Il y a plusieurs entreprises qui se partent des nouvelles applications de rencontre. On a quelques concurrents qui sont en train de se partir présentement en même temps que nous. On peut penser à Cough Dating qui va partir à New York dans quelques mois. On va avoir Zoom Dating à San Francisco.
Red Flag Dating.
Il y en a plusieurs. Là, genre.
C'est fou. Quand je disais qu'il y avait de la compétition.
Oui, c'est bon parce que là, ils connaissent leur marché.
Oui,
oui, c'est bien.
Là, ils ont chacun leur angle, là, de ce que je comprends. Vous avez votre angle à vous, c'est de présenter vos petits défauts entre parenthèses.
Exactement.
Les autres, le red flag, c'est quoi? Tu vas mettre tout ce que tu fais de plus cringe?
Un peu. Problématique. Mettons, genre, si tu bats ta femme, ben ça va être là-dessus, genre. C'est ça qui est différent.
C'est une application pour le monde de l'Alabama, c'est nickel.
De l'Alabama. Wow.
Tous ceux-là qui ont la belle camisole blanche.
Le wife beater, exactement.
Le classique, ça.
Cool.
Elle va être populaire, celle-là?
Non. Ça, c'est sûr que ça va être populaire. Le marketing, comme qui dit Oli, c'est vraiment l'obstacle principal. Parce que le côté technologique, je veux dire, 42 Québec, c'est ça la beauté. 42 Québec, nouvelle école de programmation à Québec. Puis ce qu'ils nous apprennent, c'est d'être autonome. Fait que si tu connais pas la... Tu sais, il n'y a pas de cours, là. Ils te disent pas quoi faire. C'est project-based. Fait qu'ils nous disent, va chercher la solution.
La fameuse piscine. Moi, j'ai des clients là, que j'ai installés, là. Là, il dit, ça me prend ma bonne connexion Internet. Nanana, comment ça? Tu sais, on se pose toujours des questions. Là, disant, on va faire de la piscine. Puis là, j'étais comme, de la piscine. Puis il m'explique ça. Puis j'étais comme, OK, c'est quand même cool. Là, tu sais, genre, c'est vraiment, t'es laissé à toi-même. Puis ça passe ou ça casse, de ce que je comprends. Puis c'est un gros commitment. Parce que c'est quoi? C'est un mois, 26 jours en ligne, je pense.
Exactement,
là,
ouais. Puis si jamais, mettons, t'es pas motivé, tu vas un peu moins d'heures, ben c'est certain que tu tombes en arrière. Mm. Tu sais, je veux dire, ceux qui sont pris, c'est ceux qui vont mettre les heures, c'est ceux qui vont être assidus à leur job, puis qui vont finalement être sélectionnés par le comité qui est le bocal. Puis c'est justement, là, nous autres, on est trois personnes qui ont été sélectionnées. Puis on,
fait que du côté technologique, pour l'application, c'est pas trop un problème pour l'instant. T'sais. Qu'est-ce qui va être le challenge pour nous autres? Au final, ça va être l'ampleur que ça va prendre.
Ouais.
Parce que...
Ben parce que mec, le trafic commence, ben après ça, exactement. C'est les serveurs qui sont en arrière qui doivent gérer tout ça. Là.
Exact, c'est l'architecture. T'sais, Olivier, justement, moi, je suis plus du côté conception de l'app. T'sais, j'ai fait le back-end, le front-end, mais Oli, lui, c'est plus notre DevOps.
Mm-hmm. Fait que c'est lui... tout ce qui est serveur, tout exact. Ce qui est faire fonctionner l'app en ce moment, c'est très limite en ce moment. On est vraiment fait pour travailler, on n'est pas fait pour... Il n'est pas setupé pour...
C'est ça, vous n'êtes pas en mode production.
Ah, exactement.
C'est ça, on n'est pas déployé là encore. Là.
Mais ça, ouais. Et puis, est-ce que vous pensez de faire affaire qu'une compagnie externe ou vraiment on veut tout faire ça à l'interne?
Nous, on va faire à l'interne, mais on va viser le cloud pour ce qui est de tout ce qui est l'hébergement dans le fond.
OK.
Peut-être AWS, logiquement, là, mais on verra rendu là. Ouais. Mais... excuse-moi, c'est pas ça?
Ben là, pour l'instant, on visait DigitalOcean.
Ah, excuse-moi.
Mais okay, c'est ça, un autre.
Mais souvent, tu sais, dans les deux cas, tu sais, Amazon est souvent un bon... une bonne base pour commencer. Là, je connais pas le deuxième, là, mais oui, c'est souvent une bonne base pour commencer dans ce
cas. Et là, à vrai dire, d'aller dans un créneau qui a autant de compétition, est-ce que c'est ça qui vous parle un peu? Est-ce que c'est ça qui vous motive un peu?
Ben, l'idée en tant que telle vient du fait que Match Group, c'est le plus gros, right? Match Group, vous le connaissez parce que c'est Tinder, c'est Inge, c'est 22 compagnies d'applications de rencontre.
Donc, c'est tout ça sous la même compagnie.
Ouais, c'est le plus gros. Okay? Ensuite, en deuxième, wow. Bumble, qui lui recoupe Badoo, puis Fruitz, qui est un autre triple gros géant. Qui vient juste d'être acheté. Mais en gros, ce qui arrive présentement, c'est qu'il y a comme un power vacuum. Okay? La majorité des gens sont un peu tannés de Tinder, on va se le dire. Mm-hmm. Bumble, l'action elle-même, elle va pas super bien parce qu'ils sont rentrés en IPO récemment, ils sont allés à la bourse, puis malheureusement, l'action, ils l'ont pricée trop haute. Ce qui fait en sorte qu'il y a comme une espèce de momentum à la baisse. Il y a seulement Inge qui est vraiment en croissance forte. On parle de 344% de croissance depuis 2019.
Quand même.
Donc, une immense croissance.
Puis, où est-ce que vous mettez Facebook Rencontre dans tout ça comme compétiteur?
Facebook Rencontre, c'est une autre bête complètement. Facebook Rencontre, c'est qu'ils ont le reach. Eux autres, ils ont déjà la population, ils ont déjà les profils. Tout le monde connaît Facebook, right? Ça fait que c'est de filer en aiguille. C'est vraiment, comment je pourrais vous dire, c'est une autre paire de manches. Celui-là, il est un gros compétiteur. On parle de 25% du marché. Comparé, mettons, au Tinder qui est 30 environ.
C'est ça, parce que c'est complètement gratuit. Là, ouais. Quand t'as, là vous, ça va être une...
Gratuite
aussi, ouais. Là, dans le fond. Peu importe, est-ce qu'il va y avoir des types de comptes ou vraiment
il complètement... Il va y avoir un abonnement,
oui. OK, ouais. Il va y avoir des abonnements quand même.
Après la bêta. La bêta, on prévoit de la release avec tout ce qui est disponible dans l'application. Mm-hmm. Puis aussi, on veut... avec le temps, on va développer plein de features. On a plein d'idées là, pour... améliorer l'expérience de l'utilisateur.
Parce que c'est ça, dans le fond, au début, ça va être de vous démarquer dans ce marché-là, puis après ça, avec vos idées, de vous démarquer dans ceux-là qui existent.
Mm-hmm. L'idée en tant que telle, c'est que tu sors l'application initiale avec toutes les fonctionnalités qui sont libres pour pouvoir aller chercher le plus gros segment de marché possible. Donc,
Tu crées le besoin.
Tu crées des utilisateurs, tu crées un bassin de population, tu crées des gens qui veulent aller sur l'application, tu crées un buzz. Puis éventuellement, ben là, avec les idées qu'on a créées de plus, qu'on va créer, on va ajouter, ben ceux-là, peut-être qu'on va monétiser un petit peu plus.
Parce que aussi, on aime dire que notre mission, là, c'est d'offrir une plateforme sur laquelle que les...
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans.
To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Les utilisateurs peuvent être vus puis être aimés sur leur vrai jour. C'est ça notre but au final. C'est juste que t'as plus besoin de te cacher, t'as plus besoin de mentir, tu sais, que tu passes 4 heures devant ta bio à dire qu'est-ce que je fais, genre pour séduire, c'est pour paraître le mieux que je peux paraître. Mais là, on va te sortir direct, genre, parle-nous juste de toi. Mm-hmm. Tu sais, juste au final, on veut juste savoir toi, t'es qui pour te matcher avec la meilleure personne possible.
Et pour le côté imperfect, donc ça va être quand on va créer notre profil, vraiment, mm-hmm. donc vous allez challenger l'utilisateur à dire, écoute, là, faudrait vraiment que tu nous sortes des imperfections, faudrait vraiment que tu nous sortes.
Il y a quelques features comme ça qui sont vraiment axés pour te présenter sur le vrai jour. Mm-hmm. Si jamais, Oli, tu veux en parler, sinon je peux le faire.
Mais dans le fond, premièrement, le monde va devoir un peu se remettre en question parce que, tu sais, ça reste quand même de genre se connaître pour pouvoir mettre ses imperfections de l'avant. Au début, on va avoir un quiz qui va venir servir après ça pour pouvoir venir comparer tes pourcentages de compatibilité avec les autres utilisateurs. On va aussi intégrer une fonctionnalité qu'on appelle, entre nous, là, c'est pas encore sûr, c'est le nom officiel, c'est Slice of Life. Mm-hmm. Fait que, dans le fond, c'est simplement une photo que tu prends à chaque jour pour pouvoir débloquer le swipe. Ça va venir aider gros pour...
sécurité, ça va parler aussi, empêcher les catfish, ça va te donner un petit peu de aussi de... Au jour le jour, là, t'sais, pas tout le monde qui est super incroyable à leur 31 lorsque tu vas commencer à swiper. Puis, t'sais,
sur un paddleboard.
Ouais, sur un paddleboard, puis ils font du hiking.
C'est ça. À contre-jour.
Ouais, exactement.
C'est ça. OK, donc on va faire ça, puis finalement, donc, on va répondre à ces questions-là. Mm-hmm. Et là, petit à petit, donc ça va créer notre profil. Ouais.
Notre algorithme en tant que tel, il est fait en sorte pour qu'on va matcher un pourcentage, mettons, pour de réponses de ce quiz-là. On va matcher, mettons, si jamais vous répondez tous les deux à cette question-là, tous les deux vous répondez oui, ben ça va donner un 5% de plus. Ce qui fait en sorte qu'à la fin, après avoir répondu à autant de questions, ben, tu vas voir la personne de l'autre côté de la table, elle a matché à 98% de tes questions, elle a répondu la même réponse. Ce qui fait en sorte que, regarde, j'ai peut-être des trucs en commun, j'ai peut-être un petit quelque chose qui serait intéressant. À
Puis je suppose que tout ça va s'améliorer au fur et à mesure qu'il va y avoir des utilisateurs aussi.
Ça n'enlève pas le côté qu'il faut se baser sur le user feedback, là, au final, pour améliorer l'expérience des utilisateurs. Mm-hmm. Au début, justement, on prévoit de faire... Pour établir notre relation avec les clients, on a trois steps principales qu'on veut prendre. T'sais, au début, c'est d'y aller vraiment basic, puis d'y aller avec un Reddit thread, quoi de genre, où c'est que les utilisateurs vont pouvoir laisser leur avis sur qu'est-ce qu'on doit améliorer de l'expérience. Ensuite, on aimerait ça intégrer, c'est sûr, un chat pour pouvoir satisfaire le user le plus possible.
Qu'ils puissent nous reach aussi.
Pour reach justement haut à haut rencontre. Puis aussi, idéalement, là, vous parliez tantôt du AI. De l'AI et tout, c'est sûr qu'on va en intégrer pour pouvoir justement améliorer l'expérience.
Ben aussi pour, tu sais, des fois, ça peut être de juste libérer une section qui est moins le fun à faire. L'intelligence artificielle est capable de faire ça aussi.
Une section FAQ, genre.
Ouais, exact.
AI, on va le faire.
Ouais, c'est ça, exactement.
ChatGPT, c'est notre ami.
Et à vrai dire, et puis du côté au Québec, y en a-tu beaucoup vraiment des compagnies, des entrepreneurs qui se lancent en mode applicatif?
Non. Pas vraiment. À Québec en tant que tel, au Québec en général, c'est sûr que tu as les grosses applications de l'extérieur, mais qui partent d'ici, non.
Très peu.
Oui, très peu. On serait. Ben même s'il y en a, on n'en connaît pas. Là. Genre, il y a. Celle qui avait.
Vous avez entendu,
dans le temps,
vous avez fait votre recherche.
Ben, il y en avait dans le temps, essentiellement, avec les occupations doubles de ce monde.
À l'époque, il y avait mon classeur.
Mon classeur.
Réseau Contact, c'en était un autre. T'en avais quelques-uns comme ça, mais.
Mais aujourd'hui, je pense pas qu'ils sont encore très d'actualité.
C'est parce qu'ils ne se sont pas réinventés, je pense.
Je pense que c'est
question de se moderniser. Suivre la game, on peut dire de même. Excellent. Puis j'aimerais ça, là, vraiment, si je vous pose la question, c'est où vous voyez votre entreprise dans 5 ans?
Veux-tu y aller? Je peux y aller, moi, ça ne dérange pas. Ben, idéalement, ben, regarde, nous autres, on veut prendre une bonne portion du marché. On veut prendre un segment du marché assez important pour pouvoir faire de l'argent. C'est aussi simple que ça, c'est ça l'objectif.
C'est sûr.
Mais si jamais on est capable d'avoir un bon 10% du marché rendu là, on va être très, 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 très heureux. Puis si jamais on vend d'ici là, ben, on vendra. Regardez, Match Group, appelez-nous, il n'y a pas de problème. Ça va nous faire plaisir de parler.
Bon, si vous nous écoutez, Match Group, là, allez-y, là, vous vendez ça combien actuellement? Là. Ça vaut pas grand-chose, fait que moi, j'attendrai avant de vendre.
Il faut contacter, après ça, on parle chiffres.
Excellent. Ben, c'est, écoutez, je trouve ça spectaculaire. Puis on voit vraiment que vous avez fait vos recherches, que vous êtes là vraiment à bien comprendre la game, puis vraiment savoir où vous en allez avec tout ça. Et puis, si, pour terminer, j'aimerais ça savoir un peu là, l'expérience face au dragon. Qu'est-ce que ça vous a amené?
Ça amène beaucoup de connaissances. Admettons, on commence, puis moi, j'étais arrivé là-dedans. Moi, je viens de la clôture. Je faisais de la clôture. Clôture Terrien, un de vos partenaires.
Oui, c'est vrai. Ben
oui, c'est ça, exact. Fait que moi, je faisais ça avant.
C'est gratis.
Oui, exact. Ça fait plaisir, Charles. Fait que moi, j'ai aucune idée, justement, tu sais quoi être un entrepreneur. Mais tu sais, j'arrive là, puis on nous montre, justement, un modèle d'affaires. C'est quoi de bâtir un modèle d'affaires? La segmentation client, la proposition de valeur. T'sais, après ça, on nous enseigne la comptabilité. On nous enseigne comment pitcher devant des investisseurs. Puis c'est pas ça. De même. Donc, c'est... Pour moi, personnellement, c'est l'accompagnement pour m'apprendre c'est quoi être entrepreneur.
Toujours bon aussi avoir un coach.
Ouais.
Ça, c'est
ouais, avoir cool. des contacts. Là.
Mm-hmm. Ben, parce que quand on se lance en entreprise comme ça, c'est difficile d'avoir quelqu'un qui va nous donner des conseils puisque vous êtes votre propre patron. Mm-hmm. C'est...
Exactement.
Fait que c'est souvent d'autres entrepreneurs qui sont là pour vous aider. Là. C'est pour ça que c'est là, je pense, que Face au Dragon prend toute son importance. Là.
Oui, et puis vraiment, c'est ça, tout le temps avoir de l'encadrement, vous challenger, vous mettre au défi, puis vous faire réaliser des trucs aussi, tu sais, des fois dans vos plans d'affaires. Ben excellent, ben tant mieux si vous avez vraiment vous adorez ça. Puis tu sais, nous aussi, on fait partie de l'expérience Face au Dragon. Mm-hmm. Fait que je pense que c'était une de vos premières fois à radio.
Oui, ouais, première exact. Fois.
Ben écoutez, vous avez fait ça comme des champions. Mm-hmm. Donc, l'application, on va réitérer, donc Imperfect. Puis vraiment, tenez-nous au courant, les gars, à savoir quand ça va être disponible. Fait que nous, on va partager ça aussi sur nos réseaux sociaux. Puis on va pouvoir dire, bon, le vendre dans les voiles, vous pouvez aller mettre vos imperfections sur une application de rencontre. Mais écoutez, c'est exactement la direction que vous prenez.
Avant café, là.
Exactement.
C'est vrai.
C'est ça qu'on veut.
Donc, je vous les représente. C'était Olivier Boucher, Olivier Drolet, Saint-Cyr et Alexandre de Couture. Ben, félicitations pour votre beau projet. Puis vraiment, on vous souhaite bon succès dans tout ça. Puis tenez-nous au courant du déroulement de tout ça.
Of course.
Et puis, pour ceux qui ont juste vraiment pris une petite partie de l'entrevue, ben, l'intégrale est disponible sur la chaîne YouTube de CJMD ou sur la page Facebook des Technopreneurs. Puis nous, on va repartager tout ça.
Ben oui.
On est comme ça.
Merci beaucoup, les gars.
Merci à vous. Bonne continuité. Et là-dessus, ben nous, on va aller en pause publicitaire. Et après la pause, ben on continue en mode entrepreneurial. Restez là.
Je sais le ciel. 969fm.ca.
Le bingo le plus fou du monde est de retour en 2024, plus payant que jamais. Présentez-vous directement à la station et profitez d'économies d'échelle lors d'achat de cartes. 12 cartes pour 100$ et 6 cartes pour 55$. Le bingo le plus fou du monde.
Amusez-vous et gagnez.
Pour info, 418-903-7969.
André.
You're now listening. 96.9.
Talk Rock Hip Hop, l'alternative radio.
Vous êtes sur les ondes du 96.9 CJMD et vous écoutez les Technopreneurs en ce 3 jours de CJMD cet après-midi, comme chaque dimanche après-midi de 15h. Ben, on aime ça, on fait tirer, on donne l'argent. Écoutez, c'est 3 000$ au total qu'on donne en prix, avec tout plein de petits prix supplémentaires aussi par texto, des petits concours supplémentaires. Et il est encore le temps d'acheter vos cartes de bingo si vous voulez venir rencontrer la gang de CJMD ici directement à la station. C'est au 49 rue Fortier, juste à venir vous déplacer, ou sinon ben, si vous voulez, n'importe quel dépanneur du coin, pas mal, on vend les cartes de CJMD. 11,75 une carte à jouer. C'est pas cher.
On a même un point de chute sur la Rive-Nord pour réclamer vos prix.
En plus, c'est nécessaire. Donc, c'est bien organisé tout ça. Donc, l'essayer, c'est l'adopter. Aussi simple que ça. Et nous, on va continuer avec nos entrepreneurs de Face au Dragon, parce que là, actuellement, il y a Cassandra Blouin qui est avec nous en studio. Salut, Cassandra.
Salut, ça va bien?
Oui, attends-moi un petit peu, je veux juste partir le live stream parce qu'on s'en va sur le web. Yes. Flamand, ta présence. Oui, Cassandra, donc toi, tu es copropriétaire et directrice de contenu chez Flow, donc c'est une agence créative.
Oui, exactement.
Et puis, j'aimerais ça que tu nous parles, donc c'est quoi Flow?
Oui.
C'est quoi ça?
Agence créative, c'est un beau mot, mais ouais. Ça veut dire quoi concrètement?
C'est ça, je sais pas, c'est pas un dépanneur, là.
Non. Okay, dans le fond, on est une agence marketing. On est spécialisé dans la gestion des médias sociaux, donc Facebook, Instagram, TikTok.
OK.
On fait de la création de contenu pour le web, donc photos et vidéos. On fait aussi du marketing d'influence. On a les deux volets. Donc, on a le volet qu'on peut faire des campagnes de marketing d'influence pour les entreprises. Donc, aller reach des influenceurs pour donner de la visibilité aux entreprises. Et on représente aussi des influenceurs. Donc, tu sais, leur trouver des contrats, négocier des contrats, etc. Donc, on a ces deux volets-là aussi.
Ah, OK, quand même. Donc, c'est dans plusieurs volets. Puis, vraiment, ça doit pas être si simple que ça de faire du recrutement de ce côté-là.
Niveau influenceur
ouais,
ou de niveau...
Oui, niveau influenceur, oui.
Bien, ça s'est quand même fait naturellement parce qu'on avait des connaissances dans le milieu. Donc, ils ont fait des demandes de les représenter. Fait que, tu sais, c'est pas notre core business, là. On se concentre vraiment plus sur les réseaux sociaux, mais on a ça un peu sur le côté qui vient, dans le fond, se lier avec tout le reste parce que mm-hmm. C'est toute une présence sur les réseaux sociaux, sur le web. Fait que, tu sais, notre but, c'est vraiment d'englober tous les services niveau du web.
Bien, souvent, dans le cas des influenceurs, c'est souvent une demande qui est arrivée par le biais des clients que vous avez eus. Est-ce que vous avez des personnes que vous connaissez qui pourraient nous représenter?
C'est ça.
OK, excellent. Et puis, là, tu dois être comme moi un peu, parce que là, au Technopreneur, on a vu quand même beaucoup des entrepreneurs qui ont de la difficulté avec vraiment de se représenter sur les réseaux sociaux, parce qu'on dirait qu'on ne peut pas porter tous les chapeaux en tant qu'entrepreneur et puis ça vient compliqué. Donc, c'est quoi Absolument. Tu remarques souvent qui est le plus échappé là, avec les entrepreneurs avec qui vous faites affaire?
Bien, la première chose, c'est le temps. On s'entend que, tu sais, un entrepreneur, sa liste de choses à faire dans une journée est exhaustive.
Oui.
Ton post Instagram va probablement être la chose qui passe en dernier et remis au lendemain et le lendemain remis au lendemain et encore. Mais pourtant, c'est tellement important d'avoir une présence sur les réseaux sociaux. C'est une grande vitrine puis c'est maintenant la majeure partie de ton marketing. Donc, c'est quand même à ne pas sous-estimer. Fait que c'est pour ça, le temps est une des premières choses. Puis ensuite, ben aussi, bien faire les choses. Tu sais, des fois, ça a l'air simple, faire un post Instagram, faire un TikTok, mais quand tu t'y mets, tu te rends compte que c'est pas mal plus compliqué que tu pensais, puis qu'il y a beaucoup de travail derrière la publication que les gens voient et consomment rapidement, là. Mais, fait que l'expertise aussi, ce niveau-là, c'est ça que les entreprises vont venir chercher chez nous.
Ben c'est ça, comme tu parles, entre autres, là, mettons une vidéo, ben tu sais, ça dépend. Est-ce que c'est une vidéo qu'on prend directement? Y a-tu du montage, des effets spéciaux? On met-tu de la voix off? C'est-tu de la voix originale? Donc tout ça vient impacter la durée, donc le temps que tu mets dessus et le temps que ça prend pour le publier aussi.
Oui, c'est ça. C'est vraiment beaucoup de travail. Puis c'est de savoir aussi, tu sais, pour ton entreprise, comment bien le faire. Tu sais, c'est pas vrai qu'on va avoir la même formule pour une entreprise. Là, je prends nos clients en exemple de sauce piquante que de produits pour bébé. Tu sais, c'est des secteurs différents. Il faut savoir comment adapter le message, comment aller bien rejoindre leur clientèle à eux. Ça fait que c'est toute la stratégie derrière aussi. Tu sais, il y a le produit final qu'on voit sur les réseaux sociaux, mais il y a beaucoup de travail derrière.
Tu sais, tu parles aussi des réseaux sociaux. Ben, tu sais, comme tu parles de certains clients aussi, ben, il y en a potentiellement certains clients qui se retrouvent moins sur certains réseaux sociaux. Donc, on va peut-être plus cibler un autre que, mettons, je donne, tu sais, des personnes plus âgées utilisent Facebook, des personnes plus jeunes vont utiliser Instagram et TikTok. Donc, à ce moment-là, tout dépendait du produit. C'est là qu'on décide où est-ce qu'on met l'énergie.
Ben oui, exactement. Puis c'est aussi, tu sais, des médiums qui bougent vite, qui évoluent vite. T'sais. Là, on se parle de TikTok. Il y a quelques années, c'était même pas un réseau qui existait. Mm-hmm. Fait que, tu sais, c'est de aussi être à jour là-dedans. Puis justement, comme on disait, quand tu es entrepreneur, tu as la tête, tu as beaucoup de choses à penser. Est-ce que tu as le temps d'être à l'affût de les trends qui se passent sur TikTok ou les choses comme ça? C'est un autre aspect aussi. Là.
Oui, ça évolue très rapidement. Puis c'est pas si simple que ça, faire une vidéo qui est efficace. C'est surtout ça l'affaire. Et puis, et là, ton agence Flow, donc, ça fait combien de temps ça existe?
Ça va faire 2 ans au mois de mai. Donc, on n'a pas encore 2 ans. C'est quand même récent, mais on a eu vraiment une expansion rapide là, pour la première année et demie. Fait qu'on est vraiment content à ce niveau-là. Là. On a travaillé avec beaucoup de clients. On est rendu avec 6 employés. Dans le fond, on est 2 aussi dans la compagnie. Là, je suis toute seule aujourd'hui, mais il y a Jean-Sébastien aussi qui est copropriétaire avec moi. Donc, on a parti les 2 là-dedans. Puis finalement, ben, l'équipe s'est agrandie depuis 1 an et demi.
Ben, vous êtes situé où ici, à Lévis?
Oui, on est à Lévis, dans le Cube. Dans le fond, dans la bâtisse, tout près de la traverse. Fait que le Cube, la bâtisse du Corsaire, dans le fond.
Ah, OK. Et puis, ah, ben, OK, bon, mais ça coûte pas trop cher de bière?
Non, c'est ça.
belle place pour du team building.
Ben oui, c'est exact. Ça.
Oh, on va-tu faire du réseautage? Oh, une petite bière au Corsaire. Pourquoi pas? Et puis, vous avez un très beau site web, donc flowagence.com. Vraiment, c'est superbe.
On va utiliser le terme coordonnée bien chaussée.
Oui, absolument.
Ben c'est ce qu'on se dit beaucoup. Puis on est aussi très actifs sur nos médias sociaux. Puis c'est vraiment important pour nous parce que essaye de vendre à quelqu'un l'importance d'être présent sur les médias sociaux quand tu ne l'es pas toi-même. Ça fait un peu bizarre.
On en a déjà eu.
Oui, il y en a déjà eu. Mais pour nous, c'est vraiment important. Puis après ça, c'est beaucoup plus facile aussi de montrer l'impact que ça peut avoir à nos clients quand nous, on a des beaux impacts sur nos réseaux à nous. Fait que, tu sais, on met beaucoup d'énergie, on met beaucoup de temps là-dedans, mais on voit vraiment le retour, là.
Donc, c'est vraiment la carte de visite est vraiment superbe, là, un peu partout. Et puis là, actuellement, donc, pour vous aider dans tout ça, donc, à promouvoir donc des entrepreneurs, est-ce que vous utilisez des nouvelles technologies, des trucs pour vous aider avec tout ça?
Bien, on a une plateforme de gestion de tâches qui s'appelle ClickUp. Je ne sais pas si vous connaissez. Dans le fond, c'est une plateforme que nous, tout notre contenu est là, les calendriers éditoriaux de contenu, on planifie tout ça là-dedans. Nos employés ont accès à ça. Nous, on a accès aussi pour approuver le contenu qui est fait. Puis les clients ont aussi accès à cette plateforme-là. Fait que toutes les approbations se font là. Les clients peuvent voir d'avance leur contenu qui s'en vient. S'il y a des modifications, ils nous écrivent ça là-dedans. Fait que c'est super user-friendly. Honnêtement, sans cette plateforme-là, notre job serait pas mal plus difficile.
Ben, c'est intéressant. Donc, c'est un suivi numérique, puis tout le monde touche, tout le monde a accès à ça.
Exact.
Ah, ben, c'est intéressant.
Ça, puis sinon, ben, tu sais, tous les médias sociaux, notre travail peut se faire à 90% sur un cellulaire, là. Fait que, on peut dire qu'on est très moderne dans notre niveau d'entreprise, là.
C'est excellent. Et là, vu que ça va déjà bien, donc vraiment d'aller vers l'expérience face au dragon, qu'est-ce qu'on voulait aller chercher?
On aime ça se faire challenger.
Oui.
On a participé aussi à Ose Entreprendre l'année passée. On a gagné local, régional, puis on s'est rendu au national. Puis on aime ça avoir un avis externe sur notre business. Tu sais, on est quand même des jeunes. On a parti notre business, on avait 24 ans. On n'avait jamais vraiment fait ça. Là, on s'est débrouillé puis on a go with the flow là, pour pas faire de mauvais jeu de mots. Mais on a vraiment appris en le faisant. Mais avoir un avis externe de gens du milieu, de gens qui connaissent l'entrepreneuriat depuis des années, nous, on aime ça. Puis après ça, ben, ça nous aide à, est-ce qu'on est dans le bon chemin ou au contraire, on est vraiment dans le champ. Fait que on aime ça, avoir des avis, puis des formations, puis des outils supplémentaires qu'on n'aurait pas eu nécessairement. Puis aussi prendre le temps des fois de revoir ton modèle d'affaires parce que tu sais, je veux pas quand tu t'inscris à un concours entrepreneurial, t'as des choses à soumettre là. Fait que prendre le temps de t'asseoir puis faire ton modèle d'affaires, c'est pas des choses que tu fais si t'as pas à le faire là. Tu sais, vu que la vie va vite puis t'as beaucoup de choses à faire dans une journée, fait que juste prendre le temps de tout revoir les aspects de ta business, je trouve ça le fun.
C'est un bon moment pour faire une introspection maintenant.
Exactement.
Ben, c'est super intéressant. Et puis là, à savoir, là, si je te dis, c'est où tu vois ton entreprise en 5 ans?
Ben, on se voit encore grandir. On dirait que, tu sais, quand on y goûte, on a toujours le goût de plus. Fait qu'on se voit avec plus de clients, évidemment. Peut-être des clients à l'international. On serait ouvert aussi, tu sais, voyager avec notre travail. On aimerait vraiment ça. Fait que, tu sais, plus d'employés, avoir une grande équipe, des grands bureaux, tout plus grand.
Ben écoute, on vous le souhaite, on vous le souhaite. Puis ici, on revient plus sur ton parcours entrepreneurial à toi. Donc, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui te parle depuis que t'es tout petite? Donc, vraiment de te lancer en affaires, de gérer tes propres projets?
Oui, ben j'ai toujours été une petite germaine, là, ma mère pourrait vous le dire. J'ai toujours aussi fait plein de projets. Je me souviens, en secondaire 5, on avait un cours qui s'appelle le PPO. Projet personnel d'orientation. Tu sais, les gens font des petits projets, puis moi, je suis arrivée à mon professeur, j'ai dit, je vais organiser un show bénéfice. Là, il était comme, là, tu comprends que c'est du stock, là, ton affaire, là. Puis je voulais des artistes d'envergure, puis je voulais... Okay. Puis finalement, il me laissait aller, puis je l'ai fait, puis j'ai ramassé 5 000 $ pour la Fondation québécoise du cancer. J'avais 16 ans. Fait que, tu sais, j'ai toujours un peu eu cette fibre entrepreneuriale-là. Puis c'est ça, au travers de mon parcours, j'ai eu vraiment des expériences sur le terrain. Puis je me suis rendu compte que être limité ou être dans un cadre que c'est pas nécessairement moi qui décide, c'était peut-être pas fait pour moi. Fait que l'entrepreneuriat, ça venait de soi, là.
Ben, c'est super. Et puis parce que là, toi, t'es copropriétaire, donc tu fais ça avec un partenaire.
Oui.
Et l'idée principale de Flo, c'est une idée ensemble?
Oui, c'est venu ensemble. Ouais. Dans le fond, on est amis depuis 8 ans. Ça va faire 9 ans, même, cette année. On a toujours su qu'on voulait une business ensemble parce qu'on est vraiment, vraiment complémentaires. Tu sais, moi, j'ai le côté créatif. JS a le côté vraiment business, développement des affaires, ce qui fait du sens avec nos rôles aussi dans l'entreprise. Fait que, tu sais, tout ce que moi, j'aime faire, lui, il aime pas ça et vice-versa. Fait que, tu sais, dans une business, c'est parfait.
Ben oui.
Fait que, on a développé le projet. Au début, j'en faisais à mon compte la gestion de médias sociaux. Puis finalement, on s'est dit pourquoi on n'allierait pas nos forces pour rendre ça à un autre niveau. Puis, ben voilà.
Et là, si je te dis le côté le plus compliqué, si je te demande le côté le plus compliqué actuellement, là... ça serait quoi là, dans ton entreprise en ce moment?
Ben, je vous dirais que nous, ça a été vraiment de gérer la croissance parce que c'est arrivé vraiment vite. Là. T'sais, si on se parle que là, ça fait pas 2 ans encore, on a 6 employés, on a travaillé avec plus d'une 60aine de clients. Au début, on était 2. Là. Fait que rapidement, il a fallu qu'on se retourne sur un 10aine puis que là, on embauche. Puis là, c'est aussi gérer des employés. On a 24 ans, on n'a jamais fait ça. On est comme, OK. Fait que là, toute la gestion de personnel, ça, c'est quand même un gros... une grosse partie, puis c'est ça, gérer la croissance, parce que, veux pas, on est un service. Fait que ce qu'on vend, c'est du temps. Fait que pour grossir, il faut avoir plus de temps, mais là, il y a toujours ben, juste 24 heures dans une journée. Là. Mm-hmm. Fait que ça a été de, c'est ça, aller chercher des employés, les bonnes personnes aussi, tu sais, bien s'entourer, bien bâtir notre équipe, puis c'est ça. Fait qu'on essaye de gérer ça au quotidien, c'est encore aussi, tu sais, un struggle, veux pas, faut apprendre aussi à mettre nos limites et pas travailler 15 heures par jour, là. Ce qui est, en tant qu'entrepreneur, ça l'arrive, puis on le fait, puis on aime ça, mais des fois, il faut apprendre à mettre des limites.
Ben c'est ça, parce qu'il faut penser à la pérennité de l'entreprise et de nous autres aussi, parce que, tu sais, si, justement, tu dis c'est le temps, ben, tu sais, si on n'est plus là pour donner du temps à l'entreprise, ben, l'entreprise peut pas prospérer.
Exactement.
La meilleure façon de communiquer avec vous, ça serait quoi?
Bien, par notre site web, flowagence.com. Sinon, nos réseaux sociaux, comme je vous ai dit, on est très présents. Instagram, TikTok aussi. Fait que, tu sais, juste un message sur les réseaux sociaux, on va répondre évidemment. Sinon, par courriel info@flowagence.com.
Ben, Cassandra Blouin, merci beaucoup. C'est vraiment, c'est très pertinent, ton entreprise. Puis vraiment, vous avez de l'air à savoir précisément si vous vous en allez. Puis vous avez déjà le vent dans les voiles de qu'est-ce que je comprends. Donc, ben, félicitations.
Merci, merci, c'est gentil.
Félicitations. Et puis, pour ceux qui ont juste attrapé une petite portion de l'entrevue, ben, l'intégrale est disponible sur la chaîne YouTube de CJMD ou sinon, ben, sur notre page Facebook, Les Technopreneurs. Puis, on a partagé aussi le lien de l'entreprise.
Oui, j'ai même aussi partagé ClickUp parce que je trouve que je trouvais intéressant, dans le fond, l'outil. Je pense que
c'est une belle plateforme.
Je vais aller jeter un coup d'œil moi-même dessus.
Cassandra Blouin, merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci. Et là-dessus, ben, nous, les technopreneurs, c'est pas terminé parce que ben, on a encore des actualités technologiques pour vous et ma chronique Jimbo Tech. Donc, au retour de la pause. Restez là.
Oh! Hey, salut! Ici Pépé et sa guitare. Le sais-tu que t'es en train d'écouter? T'es en train d'écouter CJMD 96.9, la radio de Lévis.
André.
CJMD, téléchargez notre appli.
Vous êtes de retour au Technopreneur en ce dimanche 3 mars 2024 et on est à 30 minutes avant le début du fameux bingo de CJMD, donc où qu'on donne 3000$ à toutes les semaines. Là, à ceux qui veulent participer, par exemple, au bingo, parce que ça vous prend une carte à jouer au coût de 11,75$.
On donne ça aux semaines, on donne pas ça aux gagnants à toutes les semaines. Mais
tu sais que tes jokes, tu fais de l'alchar, quand on est juste moi pis toi, ça se peut qu'ils passent moins bien à la radio. Là, mais... Donc, et voilà, puis j'espère que vous avez vraiment pris avec nous, donc les deux entreprises donc on avait à vous présenter aujourd'hui, donc Imperfect, qui est une application de rencontre en développement, et aussi Cassandra Blouin, qui est venue nous présenter aussi son agence créative Flow.
Hello.
Très pertinent, vraiment beau site web, et puis j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs que ça serait peut-être une nécessité de faire affaire avec une entreprise comme ça.
Elle a plein de clients là, au Face au Dragon, là, où qu'elle est, là, c'est... elle va tout ramasser ce monde-là.
Ouais, mais c'est une belle expérience de réseautage aussi.
Oui, hein, en effet. C'est ce qui ressort beaucoup de qu'on les entend. Mais là, tu sais, comme de leur côté, ils ont déjà 60 clients en 2 ans.
Ça roule.
Oui, ça fonctionne bien, leur affaire.
Ça roule, puis en plus, c'est un peu ça qu'elle nous disait aussi, à quel point que, tu sais, des fois, quand tu veux vraiment grossir ton entreprise, là, ça te prend du nouveau personnel, ça te prend des nouveaux employés, mais il faut que tu prennes le temps d'engager ça, puis tu sais, puis vraiment d'avoir la même vision aussi, parce que, tu sais, quand c'est une petite entreprise, souvent, t'en donnes beaucoup des responsabilités à tes jeunes nouveaux employés, là.
Ben oui, puis c'est souvent de garder toute l'énergie pour tout ça au complet, d'arriver de dire, bon, ben, tu sais, elle, comme de son côté, elle fait plus la aspect créatif. Donc, quand tu commences à faire plus de gestion, des fois, ça, est-ce que ça tue trop le créatif? C'est ça. Fait que moi, c'est pour ça que j'admire beaucoup les jeunes comme ça qui font, qui commencent la tête haute, la tête forte, puis qui se disent, bon, mais on saute tout de suite là-dedans. Parce que comme elle dit, 24 ans, gérer du personnel, c'est pas toujours évident.
Non, c'est ça, exactement. Fait que voilà pour le côté entrepreneurial cette semaine. Et ben, la semaine prochaine, vous allez comprendre que nous, on prend une petite pause, les technopreneurs, mais on revient le 17 mars avec deux autres entrepreneurs de l'expérience Face au Dragon à vous faire découvrir. Et puis, ben, vous allez comprendre que aussi, les entrevues sont toutes disponibles aussi sur la chaîne YouTube de CJMD. Voilà pour ça. Et là, là-dessus, on va terminer l'émission avec ma chronique Jimbo Tech.
Rétro technologie, jeux vidéo, c'est Jimbo, Jimbo Key, Jimbo Tech.
Eh oui, donc pour ma chronique Jimbo Tech cette semaine, ben ça a pas été une super semaine pour l'univers du jeu vidéo en général. À vrai dire, on a parlé de coupures, de mise à pied et de retrait d'entreprises ou de projets de plusieurs entreprises. Et ça a commencé avec PlayStation, en début de semaine, donc vraiment PlayStation a décidé de supprimer 900 emplois partout dans le monde, donc dans toutes leurs sphères de studio.
Même dans les AAA, là.
Ben, à vrai dire, donc ça, c'est vraiment les studios de PlayStation, donc PlayStation Studios. Donc, c'est tout ce qui est fait à l'interne. Donc, souvent, en anglais, on va tout le temps dire les first party.
Insomniac.
Ben là, c'est ça. Insomniac, Naughty Dog, Guerrilla Games. Il y en a quand même beaucoup. Et il y avait aussi un studio, donc London Studio, qui existe du côté de Sony depuis quand même plusieurs années. Ça a changé de mouture un peu, mais il faut comprendre que là, c'est terminé pour London Studio. Donc, c'est même plus un studio qu'on va pouvoir dire qui existe dans l'écosystème de PlayStation. Complètement terminé pour ce studio-là. Ça devait coûter cher, on s'entend, là, de vraiment d'avoir des carrières chez Sony en Angleterre. Ça devait coûter assez cher, merci. Donc, où qu'on a coupé du côté de Sony, ben, un petit peu partout, même dans tous les studios, du côté de Naughty Dog, même du côté d'Insomniac, qui ont sorti Spider-Man 2, et que c'est un super succès, mais malgré ça, on coupe partout.
C'est ça, c'est ce que je trouvais particulier là quand on regardait les nouvelles sortir là, c'est que on coupe dans des équipes là, peut-être pas, c'est peut-être pas les premières équipes là, on t'entend de chacun des studios là, mais c'est vraiment on coupe dans des studios qui ont eu beaucoup de succès avec leurs jeux là, c'est pas parce que tu sais ils ont pas bien fait là.
Exactement, mais il faut comprendre aussi que tu sais c'est 900 emplois dans le monde. Donc pour PlayStation, ça représente 8%. À peu près vraiment de la main-d'œuvre. Donc, si on fait le calcul rapide, ça veut dire qu'ils sont plus que 10 000 à travailler chez Sony. Donc, en tant qu'artisan, donc la majorité des gens là-dedans, c'est tout des gros jobs aussi, là, on s'entend. Là. Des jobs d'artisan, des jobs de programmation, de mise en marché. Donc, ça coûte cher. Et il faut comprendre aussi qu'est-ce qui s'est passé aussi. Ben, c'est on veut faire plaisir aussi à nos investisseurs. Parce que qu'est-ce qui se passe avec Sony au Japon? Ben, il y a eu quand même une drop énorme à la bourse japonaise. Et on parle d'une drop de 10 milliards de dollars en capitalisation boursière, qui est énorme. Donc, à ce moment-là, pour faire plaisir à tes investisseurs, t'as pas le choix. Faut que tu mettes, vraiment, faut que tu coupes un peu partout. Et c'est exactement ça que M. Jim Ryan a fait. Et M. Jim Ryan, tu sais, faut comprendre qu'il va quitter le navire de PlayStation, vraiment, qui est prévu pour le début mars. Non, à vrai dire, qui est prévu pour la fin mars, excusez-moi. Et là, faut comprendre que je suis pas sûr qu'il voulait quitter l'entreprise qu'il gère depuis plusieurs années.
Dans ce contexte-là.
Et en plus, lui, c'est un Britannique, M. Ryan. Donc, de mettre la main dans la hache aussi du côté de London Studio, il devait vraiment pas être content non plus. Parce que finalement, c'est tous des trucs qu'il a voulu assurer vraiment la continuité. Et puis là, malheureusement, avec tout ce qui est capitalisation boursière, on n'a pas le choix. Il faut vraiment qu'on mette là, vraiment qu'on coupe pour faire plaisir aux investisseurs.
Ben en fait, ce qu'on veut dans ce genre de move-là que les entreprises font, c'est augmenter de façon très sporadique les liquidités de l'entreprise. Autrement dit, c'est qu'on veut freiner les dépenses. Et la seule chose qui freine massivement les dépenses rapidement, c'est les salaires.
Exactement. Puis comme je le disais juste avant, c'est des salaires. T'sais. Les gens qui travaillent chez Sony à l'interne, c'est tous des gros jobs. Là. Moi, j'avais déjà vu un emploi donc du côté de San Diego, parce qu'il y a un studio là-bas, donc le studio qui font les jeux de baseball MLB. C'était quelque chose. Là. C'est genre des jobs à 200 000 $ par année.
C'est ça, c'est des ingénieurs.
Cellulaire fourni, voiture fournie.
Des ingénieurs niveau 2, niveau 3, voire jusqu'à niveau 5 dans certains cas.
Aïe aïe, là, c'est quelque chose. Faut comprendre aussi que du côté PlayStation, on a fait beaucoup d'achats récemment aussi. Hein? On a acheté Bungie pour à peu près 4 milliards de dollars. On a même acheté une compagnie à Montréal. Donc, c'est la première fois que PlayStation a vraiment un pied à terre au Québec. Donc, c'est avec Haven Studio. Et c'est Jade Raymond qui se trouve à gérer tout ça. Donc, elle qui avait fait son savoir-faire avec Ubisoft. Mais aussi, elle a créé le studio d'Electronic Arts aussi qui s'appelle Motive Game. Donc, et là, il est rendu 100% chez Sony. Et puis, du côté de Haven Studio, on n'a pas entendu parler de coupure ou de perte d'emploi de ce côté-là. Mais c'est des nouveaux gros projets là, qui s'en viennent, qui vont être livrés. Puis, on sait que ça va être des projets qui vont parler beaucoup. Donc, London Studio, c'était sûrement des jeux de PlayStation VR 2 qui était vraiment en création à cet endroit-là. Apparemment aussi, on avait pour parler aussi peut-être une remouture de Twisted Metal qui était aussi enclenchée et qu'on a décidé d'arrêter. Donc, mais tu sais, c'est des productions qui n'étaient pas si avancées que ça. Là.
Mais encore là, c'est peut-être le manque de popularité de la série qui est quand même très bonne, là, la série qui s'est diffusée sur Paramount, mais qui malheureusement...
Ben, il va en avoir une suite, donc nécessairement...
Oui, il va en deuxième saison, mais tu sais, ça n'a pas pris autant de Ça n'a pas pris toute la place que ça aurait pu prendre,
ouais.
Mais on le sait, on en parle souvent, il y a tellement de contenu maintenant que c'est ça devient difficile tout le temps de se démarquer.
Ouais. Puis en plus, ben là, je vous dirais, est-ce que c'est sûr que côté année, on s'entend qu'à date, l'année a le mal commencé dans le marché du jeu vidéo. Il faut comprendre Microsoft avec sa grosse acquisition de Activision pour 90 milliards de dollars canadiens, qui est la plus grosse transaction médiatique qui a jamais existé.
Ben, c'est parce que ça comprend Blizzard en plus. Là.
Exactement. C'est ça, et du moment Microsoft, donc en début d'année, ben, on a décidé qu'on supprimait 2000 emplois du côté de Microsoft.
Encore là, pour les mêmes raisons. Pour augmenter, dans le fond, le cash flow, le cash flow rapidement.
Ouais.
Pas pour nécessairement pour faire d'autres acquisitions, mais pour s'assurer d'être capable de rouler les nouveaux projets.
Mais tu sais, c'est fou parce que ça veut dire, tu sais, rapidement comme ça veut dire que tous les gens pratiquement chez Microsoft Game Studio, ben, il y a eu des pertes d'emplois parce qu'on a décidé de renouveler notre parc vraiment de jeux avec Activision. Et puis, ça veut dire que les projets, il n'y avait pas grand-chose d'avancé. Il n'y avait pas grand-chose qui avançait là, du côté first party. Donc, ça semble pas si évident que ça non plus arriver à réaliser des jeux grandioses quand même, malgré que c'est du talent à l'interne. Puis, tu sais, je pense qu'on le voit avec Naughty Dog aussi, avec plusieurs projets qui étaient en branle. Et puis là, nécessairement, c'est pas arrivé au rendu qu'on voulait parce qu'après ça, c'est le côté de la commercialisation du jeu qui n'est pas évidente. Et puis, vraiment, prendre la bonne avenue en fonction de type de jeu, compromis. Donc, il faut comprendre, exemple, je pense qu'il y avait un compromis aussi avec Sony, juste pour vous donner un autre exemple, avec le jeu Helldivers 2, donc qui est un second party, donc game. Donc, ça, c'est Arrowhead qui fait le jeu pour PlayStation. Et puis, le jeu, on a décidé de le lancer autant sur PlayStation 5 que sur PC. Donc, le jeu, mais c'est un jeu multiplayer. Mais est-ce qu'on a bien fait de faire ça? Ben, la réponse est oui, parce qu'actuellement, c'est un jeu phénomène, actuellement. Même, j'ai envie de dire, c'est comme un peu le jeu phénomène qui remplace Palworld. Donc, on a commencé en début d'année. Puis là, actuellement, quand on s'en va sur Internet pour voir un jeu qu'on parle beaucoup, je vois Helldivers 2 tout le temps, qui est vraiment qui sort. Et c'est le plus gros jeu que Sony a jamais vendu dans l'univers des jeux d'ordinateur.
C'est ça. Puis en plus, c'est après quelques insuccès de sortie PC, dont The Last of Us Part 1, qui a eu des petites ratées au départ.
Ouais, ben, une adaptation, donc, qui peut être un petit peu plus, moins bien ficelée. Puis là, on dirait, depuis ce temps-là, on dirait qu'on entend moins d'adaptations.
Oui, hein, parce que, ben, déjà là, que, tu sais, le projet qui était chez Naughty Dog de la version plus open world un peu, ben, ça a été.
On a annulé aussi ce projet-là.
Ben oui, puis même Neil Druckmann disait dans une entrevue récemment qu'il commençait à être fatigué un peu, puis que, tu sais, il reste pas 50 jeux encore derrière la cravate. Là.
Non, ça, c'est sûr que non. Ça fait longtemps aussi, vraiment, qu'il travaille chez Naughty Dog.
Mais sans arrêt, là. Ben
exactement,
plus,
là. Tu sais, fait que c'est toujours travailler pour la même firme pour arriver à livrer des projets très ambitieux, avec un coût faramineux aussi. Donc, c'est sûr qu'il y a vraiment, faut toujours vraiment qu'il prouve et qu'il prouve de façon générale.
C'est ça, il doit toujours être au top de toujours, sa game tout le temps.
Là. Toujours, toujours. Mais si on revient vraiment dans les coupures, vraiment un peu partout dans le marché du jeu vidéo, ben, tu sais, vous allez comprendre aussi que oui, Microsoft, avec les 1900 personnes qu'on a décidé d'annuler, mais on a acheté Activision pour pallier un peu. Mais tu sais, vous allez comprendre qu'avec Activision aussi, il y a quand même 49 postes dans les studios de Binox ici à Québec et à Montréal. Donc, il y a eu des coupures. L'entreprise aussi, Riot Games, qui est une propriété de Tencent, la firme chinoise. Donc, on a annoncé 11% des membres de personnel de la compagnie qui quittait le navire aussi. On a aussi la compagnie montréalaise, donc Behavior Interactive. Donc, c'est eux autres qui font le jeu Dead by Daylight. Donc, ça, c'est un jeu montréalais, c'est pour ceux qui ne le savaient pas. Mais on a décidé de couper quand même encore 40 emplois, donc, de ce côté-là. Fait que c'est un peu ça, là. C'est un peu ça qu'on voit. Et pourquoi? De façon générale, pourquoi qu'on coupe beaucoup? Ben, vous allez comprendre, c'est l'agglomération mondiale aussi du vraiment des jeux vidéo. De façon générale, il y a eu quand même une bonne baisse vraiment dans l'agglomération budgétaire, vraiment à quel point qu'on fait de l'argent dans le marché du jeu vidéo. Là. Je vous lance le chiffre comme ça. On fait 250 milliards. Il y a 250 milliards de dollars canadien qui se fait à chaque année dans toutes les sphères du marché du jeu vidéo qui existe.
Inévitablement, de toute façon, à cause du confinement, ce qui a causé principalement, c'est beaucoup de ralentissements dans plein de productions.
Ouais.
Les compagnies se sont mis à engager massivement pour finir les projets. Puis maintenant, ben, ils n'ont pas besoin de tout ce monde-là. C'est souvent aussi simple que ça, là. Parce que, tu sais, on le sait, pendant la pandémie, l'efficacité a pris un coup. dans le fond, au niveau de la productivité.
Ah oui.
Donc, inévitablement, dans le fond, si on se met à refaire les calculs pour augmenter la productivité, c'est le licenciement de personnel. C'est malheureusement la seule solution.
Oui, bien là, c'est 250 milliards de dollars canadiens, donc l'industrie du jeu vidéo. On parle de 184 milliards de dollars américains. C'est
ça a dépassé
rendu...
le cinéma, là.
Ben écoute, ça fait longtemps que ça a dépassé le cinéma. Le cinéma, c'est, écoute, c'est, on est à 20 milliards, gros maximum actuellement. Il n'est pas dans son pic, on s'entend non plus.
Ben non,
là.
C'est sûr que puis on n'a pas toutes les productions, dans le fond, en Inde, il y a des grosses productions ici qui sont très...
Oui, c'est sûr, si on parle juste du côté nord-américain, par exemple, avec le cinéma, c'est sûr, si on pourrait tout englober, c'est sûr. Mais on n'atteint vraiment pas chez ces chiffres-là, loin de là. Et vous allez comprendre aussi que cette année, ben ça n'a pas progressé non plus. Donc, le marché mondial du jeu vidéo. Donc, on est dans une petite baisse de 0,6% à rapport à l'année dernière. Donc, ça veut dire qu'on voit pas, on va pas chercher plus d'argent. Et là, les investisseurs dans tout ça, ben, on fait comme, ouais, ben, écoutez, on devrait-tu couper encore? Ben oui, parce qu'il y a Electronic Arts qui nous a dit, finalement, qui nous a mentionné cette semaine. Donc, il coupait 5% de son personnel aussi de jeu. Electronic Arts qui est basé à Redwood City en Californie. Donc, il compte à peu près 13 400 personnes qui travaillent pour Electronic Arts de façon globale. Et ça, c'est selon, dans le monde, là, ça serait depuis le 31 mars 2023. Donc, c'est à peu près l'info qu'on a. C'est énorme. Donc, c'est pratiquement, c'est plus que chez Sony, à l'interne. Mais là, il faut comprendre qu'Electronic Arts, ils en font des jeux quand même. Là, ils ont plusieurs bannières. Donc, tous les jeux de sport aussi, vous voyez. Donc, c'est souvent sous la bannière d'Electronic Arts. Et là, il faut comprendre, donc, on licencie 670 personnes. Et on a coupé aussi des projets ambitieux, comme une autre suite, vraiment, d'un jeu de Star Wars. Donc, qui était Respawn Entertainment qui fait ça. Donc, c'est eux autres qui ont fait Jedi Fallen Order. Et puis, donc, c'est des anciens créateurs de God of War qui travaillent dans ce projet-là. Puis, finalement, bon, on a sorti un deuxième. Les ventes n'ont pas été très bonnes non plus. C'est quand même un jeu à 80$. C'est quand même un jeu qui coûte assez cher. Mais les ventes n'ont pas été au rendez-vous. Et le résultat, on a décidé juste de fermer tout ça. Donc, vraiment des jeux pour un joueur, expérience totale, aventure, comme vous avez eu. Ben là, Electronic Arts, on a décidé d'annuler ce jeu-là. Donc, on ne sortira plus de jeux comme ça non plus. Ouais. Okay, voilà un peu pour vraiment l'industrie du jeu vidéo. Mais y a-tu du positif cette semaine dans le marché du jeu vidéo? Oui!
Ben oui.
Oui, parce que je joue actuellement à Final Fantasy VII Rebirth. Donc, il est sorti cette semaine, donc le 29 février. Année bissextile, on va faire du marketing là-dessus. Très original. Et puis, à vrai dire, vous allez comprendre, donc Final Fantasy VII Rebirth, ben c'est la suite de Final Fantasy VII Remake. Donc, on a décidé de rendre Final Fantasy VII avec un budget hallucinant, une production hallucinante. Et c'est exactement ça qu'on obtient quand on commence Final Fantasy VII Rebirth. À date, je trippe ma vie. Pourquoi? Ben, on sent tout de suite que c'est un jeu PlayStation 5. Vraiment, donc pas de temps de téléchargement. De la façon que c'est fait, de la façon que c'est ficelé. La présentation qui est dans le tapis. La qualité de production. C'est, vraiment, tout est au rendez-vous. Et puis, le jeu, vraiment, on commence sans trop vraiment vous dire qu'est-ce qui se passe dans le jeu. Parce que si vous investissez 90$ pour acheter le jeu, je me dis que vous voulez pas trop en savoir. Et moi, c'est pour ça que j'ai arrêté de vérifier les bandes-annonces de jeu, là, parce que je savais que je l'achetais, fait que j'étais là, OK, là, je veux pas jouer aux démos, je veux juste attendre à des rebondissements, puis me faire surprendre. Puis c'est exactement là que le jeu nous amène. Donc, on commence en flashback, on commence 5 ans plus tôt, et c'est nous qui vivons l'aventure avec Sephiroth et aussi avec Cloud 5 ans avant. Donc, c'est spectaculaire, c'est bien fait. Il faut comprendre que Final Fantasy VII, c'est sorti en 97 là, quand même. C'est un vieux jeu de PlayStation 1, mais qui a vraiment fait éclater complètement Squaresoft à l'époque.
Ben oui, je me rappelle parce que moi, juste, bien honnêtement, c'est le seul Final Fantasy que j'ai vraiment aimé.
C'est ça.
Parce que, tu sais, puis tu sais, comme tu disais justement, c'est ça qui est le fun, par contre, de l'histoire de Final Fantasy, c'est que le monde est tellement riche que tu sais, il y a quand même ça a fait pondre 2 films, entre autres, le premier film qui est juste dans l'univers de, mais qui est pas vraiment inspiré, et Advent Children, qui est vraiment une suite directe
du jeu original. Là, je me rappelle quand je l'avais vu à l'époque, puis tu sais, très bien fait du beau manga japonais. Donc, tu sais, c'est, je pense que c'est ça la beauté de Final Set puis d'un jeu de main. Tu sais, je pense que je vais attendre que là, parce que ça va être en trois volets, là. Il y a un troisième volet qui va s'en venir.
Absolument. Ça, c'est pas terminé, mais du côté de Rebirth, vraiment, la grosse différence, c'est qu'on est vraiment dans des environnements ouverts, vraiment, puis on nous dirige pas beaucoup non plus, sauf au début du jeu. Mais c'est vraiment spectaculaire et la façon que je vois le jeu, écoute, c'est un 80-90 heures de jeu. On en a pour notre argent, là, vraiment. Puis en qualité visuelle, en qualité de production et en qualité sonore, c'est extraordinaire.
À 90 heures, ça revient une pièce de l'heure, c'est pas cher payé.
C'est pas trop cher, hein, quand même. Donc, je pense pour ça que les jeux vidéo, on dit tout le temps que c'est le divertissement peut-être le plus accessible, le moins cher, oui, le moins dispendieux.
Cinéma vient en deuxième.
Ouais, le cinéma vient en deuxième.
Ah, ça dépend. Si tu prends le familial là, ou une personne, c'est le cinéma le moins cher. Familial, la console.
Et quand tu parles du familial, c'est le popcorn extra large avec la liqueur et tout.
La couche de beurre au milieu, s'il vous plaît.
Merci beaucoup, chers auditeurs, d'être là comme à chaque semaine. Et puis, vous allez comprendre que si vous avez juste pris des petits segments des technopreneurs, ben, l'émission va être disponible en balado-diffusion juste après la diffusion. Et là, commencez à vous préparer, genre du bingo, parce que ça en vient. Et on veut juste vous rappeler aussi que la semaine prochaine, ben, nous, les technopreneurs, on prend une petite pause relâche. Et puis, on va revenir le 17 mars en feu avec aussi des nouveaux entrepreneurs de Face au Dragon. Donc, et puis sur les ondes de CJND, ben vous allez comprendre, c'est le bingo à 15h, le show des Trois Flots, animé par Samuel Labbé à 18h. Et aussi pour les fans de rock, ben oubliez pas qu'à 22h, syntonisez 96.9, parce que c'est le chiffre de soir avec
Thomas Leclerc.
Voilà, et là-dessus, ben on vous souhaite une belle après-midi sur nos ondes.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.